quatre talentueuses et légendaires. C'est pour ça. Si, quand même. Bon, juste pour un. Ça va ? Bien fait. Voilà, oui. Donc, illustrateur. Voilà. Donc, Gilles Francescano, Vincent Joubert, Ciro Tota, Philippe-Henri Turin, qui ont chacun des parcours différents, qui appartiennent chacun à des générations d'illustrations différentes, qui ont chacun des techniques bien. Différentes. Oui, non mais moi je suis la dernière.
Ça doit être comment?
La première.
Ouais, voilà, c'est ça. 1, 2, 3, 4. Je pense que ça doit faire ça.
Et donc le thème c'est parcours d'illustrateur. Donc on va un petit peu voir comment vous êtes rentré dans le métier, pourquoi ça. Tout le monde vous l'a posé, donc on va le reposer une dernière fois, pour être original. Voilà, des petites choses comme ça. Donc on va commencer avec qui? D'accord, je vois. Ciro, non, c'est vrai, ils sont touchés. Là.
Bon, allez.
Donc Ciro.
Bon, j'attaque. Au milieu.
Voilà, alors
essayez de parler très rapidement. J'ai du mal à parler de carrière, mais d'une vie professionnelle, c'est un peu difficile. Et raccourcir un maximum, c'est très très difficile. Donc moi, j'ai commencé par accident, je pense. C'est lié à l'enfance. Je pense que tout est lié à l'enfance. Je sais pas, voilà. Donc, je vais faire court, hein, parce que. Et je suis arrivé en France, je savais ni lire ni écrire. Et ce qui était le plus simple pour moi, pour me faire comprendre de mes petits camarades, c'était de dessiner. Donc j'ai commencé à dessiner. Très mal, bien entendu, mais je dessinais. Aussi mal que mes petits copains, mais donc ça passait. Et petit à petit, j'ai appris à lire et écrire grâce aux bandes dessinées. On dit que c'est la bande dessinée, ça tue l'esprit ou l'ouverture pour aller au roman ou à l'écriture, c'est faux. Donc j'ai pu apprendre à lire et à écrire avec ça, et donc à dessiner. Et en fin de compte, je me suis aperçu aussi que j'ai pu en faire un métier. Et c'est parti d'une passion, la passion de raconter, d'apprendre à des histoires, de les restituer avec très peu de moyens, un crayon, ça suffisait, du papier. Et donc, pour moi, en tant que maintenant dessinateur de bande dessinée, c'est parti du fait que j'étais un ignorant, un émigré ignorant qui essayait de me faire une petite place avec les petits copains qui en savaient plus que moi à ce moment-là. Voilà, c'est tout. C'est parti de là. Italie. Je suis arrivé pas très loin d'ici, au Carreau, pas très loin du Grand Large. Et j'avais 6 ans à peu près. Voilà. On m'a mis directement à l'école, au cours primaire, chez Madame Le Prince, je me souviens encore, Madame Le Prince, voilà. À l'école du Carreau.
Gilles, comment est-ce que tu es arrivé dans le métier au moins?
Alors, l'envie de dessiner vient de la lecture, en fait, au départ. C'était le fait d'ouvrir un livre et puis de le refermer après la lecture et de se dire, mais. Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire en couverture, quoi, en fait. Alors, à l'époque, c'était Sweet Mac, par exemple, qui illustrait énormément de couvertures chez Press Pocket. Alors, c'est vrai que le rapport entre le texte et l'illustration était assez improbable, ce qui fait que ça soulevait quand même pas mal de questions. Et donc, il y a eu ça d'un côté. Après, voilà, le plaisir du dessin. Alors, pour les grands anciens, la grande époque des vinyles. Les 33 tours illustrés, c'est aussi quelque chose qui m'a énormément influencé, même si j'ai toujours été un piètre musicien. Et puis ensuite, voilà, la découverte d'un métier, quoi, se rendre compte que Sweet Mac, c'était pas juste une marque déposée d'une société, que c'était un vrai bonhomme, que c'était un illustrateur qui avait un vrai métier, à peu près, sans pas en parler aussi, qui avait un métier derrière ça, et donc la découverte et la rencontre en fait, de gens, quoi, en fait, hein, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'école d'illustration. Enfin, proprement dit, il y avait des parcours de dessinateurs et des parcours d'école de dessin, mais voilà, j'ai sauté le pas.
Tout ce qui est beaux-arts, arts appliqués et compagnie.
J'ai fait une année d'art appliqué parce que je me suis malheureusement rendu compte qu'ils demandaient aussi autre chose que le dessin. Alors je me souviens d'aller quémander à mes profs de chimie, mes profs de maths, des notes pour au moins me laisser, et puis bon, ça n'avait pas marché. Quoi. Donc j'ai un peu cuté ça, et puis je suis monté à la capitale, entre guillemets, pour... pour aller user les huisseries des éditeurs.
Philippe Henry.
Alors, bon, je les entends parler tous les deux. Ils arrivent à savoir exactement, à peu près. Moi, je pourrais pas vous dire. C'est-à-dire que j'ai appris beaucoup plus tard, puisque moi, mon père est mort, j'avais 4 ans. J'ai appris beaucoup plus tard qu'il n'était pas seulement mécanicien navigant Air France, mais qu'il dessinait à longueur de journée. Mais je ne le savais pas. Et en fait, j'arrive pas à me souvenir du moment où j'ai commencé vraiment à dessiner. Je crois que ça a été... ça a toujours été. J'avais 10 ans quand j'ai acheté le premier cadeau à mon frangin. C'était la piste des Navarros de Blueberry, dessinée par Jean Giraud. 3 jours plus tard, j'achetais l'Empire des Mille Planètes de Mézières. Et je copiais sans arrêt Astérix, Lucky Luke, puisqu'il n'y avait pas de manga à l'époque. Donc, à la différence des enfants de maintenant qui copient les mangas, Astérix, Lucky Luke, Is No Good, tout y passait, Tanguy la Verdure. Et j'ai fait ça jusqu'à l'âge de 16 ans. Et jusqu'à l'âge de 16 ans, j'ai dit à ma mère, je veux faire du dessin. Mais à savoir pourquoi, alors là, ça, je suis super envieux des gens qui savent exactement. Moi, je ne sais pas. J'ai voulu faire que ça et je fais ça. J'ai 49 ans et je fais encore ça. Bien que ce soit difficile, mais comme je dis tout le temps, je suis comme la moule sur le rocher, je suis accroché. Et en fait, à la différence de beaucoup d'éditeurs qui voient passer les illustrateurs, moi, je vois passer les éditeurs. Ils disparaissent les uns après les autres et moi, je suis toujours là. Voilà. Et je continue encore.
Mais j'avais pas vu ça sous cet angle-là, mais c'est vrai, c'est un peu ça. Oui. C'est les éditeurs qui passent et les
dirigeants. Parce que bizarrement, il y a beaucoup d'illustrateurs qui disparaissent ou d'illustratrices. Mais en fait, les plus vieux qui restent, ils ont un carnet d'adresses au crayon en papier parce que sinon, vous le recommencez sans arrêt. Non seulement ça tourne, mais en plus de ça, ça disparaît. Donc c'est un truc, métier d'éditeur, c'est spécial. Et moi, je sais pas. Je peux dire les dessins de Giraud, les dessins de Mézières, je sais pas comment on dit, c'est Mézières, Mézières, je sais pas. Cieux de Mac, j'ai dû découvrir ça, je devais avoir, 25 ans, je suis très tardif de ce point de vue-là. Ouais. Il est toujours vivant. Ah, je sais pas.
Je peux poser une question, moi. Tu as commencé à dessiner vraiment.
Professionnellement.
Aimer ça, à part. Quand tu étais gamin ou
l'année dernière?
Parce que sur le Mac, quand tu vois ça, quand même, tu es ado à ce moment-là.
Ah non, alors moi, non. Alors pour le coup, j'ai vraiment une anecdote, mais bon, du coup, je voulais pas.
Ouais, tu voulais pas faire.
Qui m'a vraiment lié tout de suite à Sweet Mac, en fait. Et ça, c'était avant la 6e.
Ah ouais, parce que c'est un univers très particulier.
Ah ben ouais, tu vois le bouquin, tu te dis. Et en fait, l'anecdote, c'est parce que. Bon, bref, on va partir dans les. Donc avant la 6e, parce que je me souviens de l'école, mais pas exactement de la classe, un camarade de classe ramène 2 bouquins qu'il avait peut-être piqués au marchand de journaux du coin, tu vois, ou autre. Et il y avait donc un bouquin de SF et un Saint-Antonio, avec une nana à poil, ou probablement, quoi.
T'as failli partir.
Et en fait, j'ai pris le bouquin de SF. Quoi. Alors après, bon, peut-être que je peux regretter. Hein, je sais pas, c'est pour ça qu'après, je me suis rattrapé en mettant quand même quelques nanas à poil sur les couvertures. Mais le bouquin de SF en question, c'était un Van Fox, c'était À l'assaut de l'invisible. Et l'illustration, c'était une tête de femme avec un troisième œil ouvert, un visage aux yeux fermés avec un troisième œil sur le front ouvert, et une tête de chat qui passe avec des effets de vélocité derrière. Quoi. Et voilà, quand t'as donc moins de 12 ans, tu vois la couverture et... Je me souviens juste que c'était une histoire de gars qui quémandaient du sang dans la rue à la place de faire l'aumône d'argent. Mais voilà, et cette image-là, elle m'a vraiment marqué. Quoi. Après, j'ai racheté des illustrations de cette couverture-là, des éditions et des choses comme ça. C'est comme ça que je me suis vraiment intéressé à l'image et à l'illustration. Des illustrateurs qui faisaient vraiment une imagerie étrange, en fait. Tu vois, moi, c'est... Je suis pas du tout issu du milieu, tu vois, de Giraud, Mézières, tout ça. C'était un truc qui me parlait absolument pas, quoi. Un dessin précis à la ligne claire, c'est vraiment loin de mon univers. Et moi, c'était plus Sweet Mac, Tibor Cernus, qui pour moi est un des géants de la peinture, quasiment toutes catégories confondues, et qui est vraiment passé à la trappe. Mais voilà. Mais écoutons Vincent.
Oui, écoutons Vincent.
Alors, donc moi. En fait, déjà, je vis de mon dessin, de l'illustration, depuis 5-6 ans, vraiment. Parce que, donc, pour, rapidement, donc bon, depuis tout petit, je dessinais, j'adorais ça. Bah oui, forcément. Après,
t'es pas le seul, tout va bien.
Ouais, bon, ok. Après, bon, c'est pareil comme disait Siro, ou non, je sais plus, Philippe. Après, oui, je sais pas quand ça remonte à l'enfance. Forcément, c'est très lié à l'enfance. Bon, mes grands-parents, qui faisaient un métier qui avait rien à voir. Mon grand-père était notaire, il peignait, il faisait de la peinture, il y avait des sculptures, tout ça. Donc, j'avais pas grand-chose dans la maison familiale, mais il y avait quelques exemples, donc je pense que ça a dû me marquer quelque part. Donc voilà, donc je dessine depuis longtemps, mais voilà, j'adorais dessiner. À l'époque, ce qui m'attirait quand j'étais jeune, c'était l'image de synthèse, la 3D. L'illustration, à ce moment-là, pas trop encore. Donc du coup, je suis parti sur la filière technique, parce qu'à l'époque, c'était, il n'y avait pas de formation comme maintenant d'image de synthèse dans les écoles. Donc je suis parti sur la filière technologique, parce qu'à l'époque, image de synthèse 3D, c'était ingénieur en informatique et c'était après un an aux Beaux-Arts. Et je me suis arrêté en cours de vol, parce que l'ingénieur, tout ça, voilà. Et du coup, je suis resté, j'ai une licence ingénieur électrique. Voilà, rien à voir avec la choucroute. Et j'ai réussi à faire quand même une formation, mais purement technique, sur les logiciels 3D. Et j'ai fait après un stage dans une entreprise et j'y suis resté 11 ans. Donc j'ai fait 11 ans chef décorateur dans une société peut-être que quelques-uns connaissent, s'appelle Eden Games, donc qui était le studio interne, enfin qui est toujours. Je ne sais pas combien de temps, combien de temps. Enfin, voilà. D'Infogrames et d'Atari. Donc voilà. Mais après, pendant ces 11 ans, j'ai dessiné le soir. Voilà. En fait, quelque chose que je me rends compte depuis 5-6 ans que je commence à vivre du dessin vraiment, c'est que j'ai un besoin irrépressible de créer. Donc, je sais pas d'où ça vient, docteur. Mais donc voilà, donc j'ai besoin de créer, de sortir des choses depuis très très longtemps, même quand j'étais. En jeu vidéo, le soir, je dessinais, je continuais. Voilà, donc en fait, au niveau du dessin, l'illustration, je suis autodidacte. Et donc j'ai appris à regarder des illustrateurs, des peintres, beaucoup de peintres. Il y a un magazine, une revue qui s'appelle Spectrum, que vous devez connaître. Alors là, j'ai passé des heures à regarder les illustrations. Donc voilà, et... au bout de 11 ans dans le jeu vidéo en tant que chef décor, je faisais que de la 3D, hein, pas de dessin du tout. Moi, on m'amenait les illustrations, les designs et les contraintes de l'autre côté, technique. Et voilà, il fallait que je fasse ça en 3D. Ouais. Et donc, j'en ai eu marre pour plusieurs raisons.
Chez Eden.
Ouais.
Beaucoup de courses de voitures, donc.
Au début, mais plus après, non. Après, il y avait d'autres choses, mais ouais, entre autres. Donc j'ai arrêté et donc j'ai démissionné et comme ça faisait un moment que je travaillais mon dessin, la couleur, tout ça, donc bon, j'ai envoyé mon CV à Ankama, que quelques-uns doivent connaître, et j'ai été pris, et voilà, donc du coup je suis devenu décorateur pour le dessin animé, en fait coloriste, tout le temps, le soir, entre midi et deux, en travaillant mon dessin, l'illustration, voilà. Et du coup, voilà, je suis illustrateur. En fait, vraiment, le métier d'illustrateur, je le fais le soir. Le soir, entre midi et deux, les vacances et Noël. Et les week-ends. Oui, tu disais ?
Non, les autres aussi, le soir.
Oui, les autres aussi, oui. Et dans la journée, je suis coloriste. Coloriste pour du dessin animé. Voilà.
Dilettante, quoi.
Oui, dilettante. Ouais, grosso modo, ouais. Voilà.
Et justement, en fait, vous avez tous des parcours différents, des origines graphiques différentes. Vous avez aussi chacun votre média différent, que ce soit plus l'ordinateur, plus l'encre, plus l'aérographe à l'origine. Est-ce que justement on trouve petit à petit sa ligne, ou est-ce que on reste à son premier amour au niveau graphique ?
Je crois qu'il va parler. Enfin, moi, pour moi, dans mon cas, non, il y a une lente progression du matériel. On découvre des choses au fur et à mesure, les années passent. Je veux dire, moi, ça fait 20 ans que je fais ce métier, plus les années d'école, et j'en ai fait beaucoup. Hein. Je suis passé par les Beaux-Arts de Lyon, j'ai fait une école, j'avais fait un an d'école privé avant, donc ça fait 6 ans d'école, donc j'ai le temps de découvrir beaucoup de matériel, de savoir que la gravure, j'en ferai plus jamais de ma vie. La sculpture, c'était pas du tout mon médium parce que je ne vois pas en relief, ce qui est bizarre pour les gens qui voient mes dessins, mais voilà. Donc il y a tout un tas de matériel comme ça. L'informatique, j'en ferai jamais de ma vie parce que j'aime avoir la peinture au bout des doigts, j'aime en avoir jusque là, voilà. Et les choses sont venues vraiment au fur et à mesure. Donc je pense pas qu'on travaille, enfin tous autant qu'on est, je pense pas qu'on travaille dans un médium et qu'on n'en cherche pas d'autres. Pour le coup, il va téléphoner un jour, il m'envoie je vais vous dire comment ça s'est passé. Je reçois un mail d'un type que je ne connais pas et qui me dit, voilà, bonjour monsieur Turin, je vous ai vu un monde de bulles et j'ai vu, en plus, vous habitez pas loin de chez moi. Je voudrais vous voir, voilà ce que je suis capable de faire. Il y avait des dessins, c'était à se tirer du plomb. Et qu'est-ce que vous pourriez m'apprendre ? je vois pas qu'est-ce que je peux lui apprendre quoi. Donc on s'est eu au téléphone par mail. Non, d'abord par mail. Ouais, j'étais trop timide le mec, donc j'ai écrit par mail.
Tu sais envoyer des mails déjà.
Ah ben oui, c'est Beanstalk, c'est un éditeur. Donc voilà, je lui dis mais qu'est-ce que vous voulez que je vous apprenne quoi. Et il m'a expliqué qu'en fait non, c'était pour tes enfants et tout ça, et qu'il demandait. Non, c'était ouais. Juste toi, parce ouais. Que voilà, d'avoir des dessins non seulement informatiques, mais de pouvoir les remettre sur du papier à la peinture et tout ça. Et donc, il trouvait, je crois, tu trouvais quoi ? Que mes couleurs correspondaient un peu à. Enfin, j'avais expliqué un peu ma technique dans un monde de bulles, mais je sais pas si j'étais très clair, comme maintenant d'ailleurs. Et donc, bref, il voulait connaître un peu ma technique.
Ouais.
Bon, je lui dis, il n'y a pas de problème, quoi. Moi, il y a des gens qui sont plus âgés que moi, quand je leur demandais. Des choses qu'ils avaient mises au point, des techniques, ils ne voulaient pas m'expliquer. Et je trouve ça lamentable, quoi. C'est une perte du moment que quelqu'un a passé des fois 10 ans à trouver un système pour mettre au point des couleurs, une manière de représenter les choses. S'il ne le dit pas, bah c'est perdu. Donc moi, je trouve que c'est bien de le dire. Et lui, après, c'est quelqu'un qui m'a appris ça. Lui, il le met à sa sauce après. Et l'affiche qu'il a réalisée, il l'a faite à la peinture. Voilà. Et peut-être qu'il y a 5 ans, il ne l'aurait pas fait à la peinture.
Non. Non. Je me suis mis à la peinture grâce à toi.
Il a changé de médium en rencontrant une autre personne. Voilà.
Il y a 2 ans.
Donc après, pour les autres, je ne sais pas. Ce qui fait que j'ai répondu pour toi, zut.
Ah oui, mais en fait,
impeccable.
Donc pour toi, donc.
Non. Pour moi, voilà quoi. Et après, effectivement, alors là maintenant, j'ai l'impression de faire un peu les mêmes bouquins avec la même technique. Mais il y a 20 ans de travail derrière moi pour arriver à ça. Mais peut-être qu'effectivement, au bout d'un moment, j'en aurai assez. Et puis je voudrais faire d'autres choses, voilà, mais je sais pas encore. Pour le moment, je suis bien dans ce que je fais, donc j'utilise ça, voilà. Mais effectivement, au bout d'un moment, on finit par se lasser, on a envie de découvrir d'autres choses. Alors, plus sur des travaux personnels. Bon, quand il y a le temps de faire des travaux personnels.
Ou des occasions de rencontres, je sais que.
Ou des rencontres, exemple, des choses sur des salons, des affiches. Ou des couvertures s'il arrive, et on essaye autre chose parce que c'est un one shot, c'est un truc vraiment très précis.
Mais là, l'affiche, là, pour moi, c'était le prétexte justement du tradit, j'en fais très rarement. Voilà. Et là, l'affiche, c'était vraiment l'occasion il n'y avait aucune pression, de prendre mon temps et de me faire plaisir sur du traditionnel, de la peinture.
Bon, après.
Vas-y, Gilles. Moi, disons, ce que je peux dire sur les techniques, c'est je pense que c'est plus des rencontres en fait. Ouais. Parce que, moi pour le coup, c'est vrai que la technique que je n'ai jamais quittée, c'est le crayon, en fait, hein, simplement, parce que c'est vrai que ça, c'est quand même le plus pratique, le plus immédiat et le plus spontané. Et ce qui s'est passé, c'est par exemple, c'est vrai que j'ai fait 25 ans d'aérographe. J'ai fait 10 heures d'aéro toute la journée pendant 25 ans. Je ne veux pas avoir mes poumons, ouais. mais c'est vrai que quand je parlais de l'aérographe à l'époque, on me dit « Oh putain, ça c'est chiant, il faut nettoyer, t'es à distance du papier, c'est contraignant ». Alors que moi, j'avais vraiment trouvé la technique qui m'a libéré, quoi. Vraiment qui m'a libéré. C'était une continuité immédiate. Alors pas à la Giger, hein. C'était pas je fume et puis je vais voir ce que le nuage va me donner. Mais c'était vraiment une spontanéité sur le tracé. C'était après en fonction des outils. Et comment ça s'est goupillé ? C'est simplement que je dessinais. Alors voilà, on parlait de la jeunesse tout à l'heure, 15-16 ans, je customisais les mobilettes des copains, je redessinais le monstre de Maiden à peu près à toutes les sauces, sous toutes les coutures. Et puis à 18 ans, en fait, les copains se cotisent pour m'offrir un aérographe, en fait. Et ceux-là, alors c'est vrai qu'ils me recroisent de temps en temps, ils se marrent toujours parce que, voilà, parce que j'ai fait ensuite de l'aérographe pendant 25 ans. Et alors ça m'a amené à faire d'autres choses, hein, que ce soit, parce que bon, c'est vrai que c'est quand même une technique de mise en couleur, on s'en met quand même plein les doigts. J'ai fait pas mal de démonstrations pour des marques d'aérographes, pour des choses comme ça, des concours qui donnent aussi, qui donnent envie de continuer, parce qu'on se dit, bah tiens, c'est la bonne méthode, c'est la bonne technique, on a trouvé une adéquation avec quelque chose dans lequel on est bien. Mais après, ça m'a amené à travailler sur des formats aussi différents. Je suis passé de l'aérographe au pistolet, et le pistolet de carrossier. Après, ben, quand on s'amuse à faire une illustration, on fait un décor. Et quand on s'amuse à faire du décor, ben, tiens, il y a un copain qui passe, il me dit « Ah putain, j'ai un copain, il est forain, il faudrait un train fantôme. » Donc tu t'amuses à faire des trains fantômes. Et du coup, j'ai fait des trains fantômes, ou des boîtes à rire qu'ils appellent, des trucs comme ça. Et là, tu te dis « Bon, non, là, peut-être que quand même, faut arrêter, quoi. » Alors c'est pas lié à ça, mais voilà quoi, quand on commence à tomber des échafaudages, on se dit on va passer à une autre technique parce que là ça va plus être possible. Et c'est ce qui s'est passé quoi en fait. Et c'est vrai qu'après, maintenant je travaille plus que sur Photoshop. Alors je dessine pour moi sur des carnets, bon des choses comme ça, je gribouille nuit et jour. Mais tout ce qui est dessin de commande ou illustration, c'est aujourd'hui sur Photoshop. Quoi. Mais du crayonné à l'exécution finale. Et pour moi, ça m'a remotivé, quoi. C'est vraiment un outil qui m'a remotivé, qui m'a redonné envie de dessiner, qui m'a vraiment... Bah parce que, voilà, on découvre autre chose.
C'est une technique qui peut être similaire à certains...
Ah, pour moi, ouais, parce que pour moi, disons, l'aérographe, c'est avec des pochoirs, c'est hyper méthodique, même si moi, je trouvais vraiment une grande liberté. Mais du coup, il y a un travail par calque, ce que je retrouve avec Photoshop, quoi. C'est vraiment la même façon de penser du... Je dirais presque du lavis, sauf que, voilà, ce qui manque, c'est quand même l'original. Mais voilà, sur le dessin lui-même.
Et le CTRL-Z qu'on cherche toujours.
Ouais, le CTRL-Z c'est pas mal, c'est vrai que c'est quand même pas mal.
Ça change la vie.
Mais voilà, après, bon, disons, moi pour l'objet final, ça importait peu la technique, puisque pour moi l'objet final c'était le livre. J'ai jamais été très attaché à mes originaux, les trucs comme ça, donc c'était vraiment le livre.
L'original informatique, enfin, l'original. En numérique, c'est vraiment un principe délicat, parce qu'on ne sait jamais ce qui devient, si on le perd. Si...
Ouais, mais ça n'existe voilà. pas.
Ça reste intangible.
Ça, c'est une je dirais, une gagémie de galériste. Ils ont inventé ça pour dire à un objet combien on va le vendre. Quoi. La digigraphie, c'est du bluff. Ils ont inventé ce principe de digigraphie pour dire qu'il y a un original qui est estampillé, qui est numéroté, qui est censé être c'est garanti 100 ans à peu près, hein, les encres.
Oui, bah, de toute façon, on sera...
Mais qui a le recul Et puis, bon,
moi, oui.
Puis,
mais la reproduction est vachement belle.
Ouais, bien sûr.
Ah, j'en ai vu certaines.
Oui, mais non, mais avec Artefact, on avait acheté une machine, on en avait vendu quelques-unes, mais c'est un bluff quand même. Quoi. C'est une manière de dire qu'il y a un original qu'on ne peut plus avoir. C'est la rareté qui fait le prix d'original, donc à un moment donné, le numérique est venu casser ça. Quoi. Mais c'est intéressant parce que moi je trouve que c'est même une réappropriation du bien, parce que l'original c'est le galériste qui fait la, entre guillemets, je dirais la culpute, alors qu'aujourd'hui en numérique, un illustrateur peut très bien vendre ses reproductions, peut très bien. Je trouve qu'il y a vraiment une réappropriation de la création avec le numérique. Mais bon, ça c'est un autre débat.
Siro ? Moi, en ce qui concerne le média, le médium, le rendu BD est beaucoup plus simple. J'avais à m'occuper et j'étais parti dans cette optique-là. Et j'étais élevé à ça, c'était le noir et blanc. Donc, il fallait avoir du noir et du blanc. Il fallait se débrouiller pour avoir du noir et du blanc. Donc, c'était des encres et puis du papier. C'est tout. Et la difficulté, c'était bien sûr de rechercher des formes plus que de me focaliser sur les encres, sur quel type de crayon je vais prendre, quel type de feutre. Avant, c'était des plumes, c'était du pinceau. Donc, j'ai attaqué avec le pinceau. Après, il y a eu le feutre. Après le feutre et le pinceau, il y a l'ordinateur qui est arrivé. Donc, je me suis servi un tout petit peu aussi de l'ordinateur. L'aérographe, j'ai survolé ça, justement, parce que ça se bouchait, c'était long, ça. On respirait de tout et c'était horrible. Et c'est vrai que l'ordinateur a nettoyé tout ça. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont éviter pas mal de cancers de poumons grâce à l'ordinateur. Par contre, ils vont choper plein d'arthrose aux doigts. Donc il y a ça. Et en ce qui concerne la BD, donc c'était le noir et blanc. Et il y avait un côté très artisanal et de un côté immédiat. On voyait, on ancrait, c'était bon. Et aussi, c'était comme toi, Jean-Philippe, il y avait le fait de pouvoir garder un original aussi qui est important. Ça, je le fais toujours. Et c'est vrai que bon, j'entasse les originaux qui s'exposent, etc., etc. Enfin, j'espère qu'ils s'exposeront.
Et on donnera la date.
Donc, c'est gratifiant au moins pour ça. Et le côté technique, en ce qui concerne la BD, c'est plutôt le côté narratif. C'est-à-dire que c'est pas qu'une illustration, c'est plusieurs petites cases qui doivent se suivre. C'est quelque chose de bâtard. C'est pas tout à fait de la littérature. C'est pas tout à fait du dessin. C'est pas tout à fait de l'illustration. C'est un résumé de ces trois choses-là, très dilué, qui font que, entre guillemets, ça fait un art qui est un art narratif. Et le fait de... Moi qui ne connaissais rien, qui... Bon, le fait de pouvoir raconter une histoire avec très peu de moyens, ça m'a poussé à continuer, à persévérer. Et je vois pas les choses à longue échéance. Hein. On voit toujours au prochain... On se base sur le prochain projet, mais à savoir quelle technique je vais utiliser pour le prochain projet, je pense que c'est des accidents qui nous arrivent parfois. On est sur une page, sur une case, je sais pas, y a quelque chose qui se passe, un coup de téléphone ou je sais pas quoi, le verre tombe ou le pinceau ou le feutre tombe, etc. On se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Mon feutre a cassé, je reprends le feutre, le trait est différent. On apprend à couper les feutres. Le feutre devient plume et pinceau en même temps. Donc c'est des accidents qui font que parfois on change de médium. Et on avance tant bien que mal en espérant, on se dit, on progresse, mais on progresse très très lentement sur une durée de 10 années, je ne sais pas, les progrès ont été très très limités et puis c'est très très lent à chaque fois. C'est vrai que quand on revient en arrière et qu'on repasse sur nos premiers dessins, Il y a un côté, un petit côté malhabile et presque touchant. Mais bon, si j'arrive à faire ça encore dans 10 ans, si j'arrive à rester à mon niveau actuel dans 10 ans, je serai déjà très content. Maintenant, le fait de créer différemment, ça c'est toujours quelque chose qu'on recherche, mais on n'a pas les codes et on n'a pas encore les moyens actuels de se projeter dans cet univers de création pour les années qui suivent. Mais le média, c'est juste un support par rapport à la façon de vouloir raconter une histoire ou de vouloir dessiner cette histoire, la narrer.
Et justement, l'évolution des techniques ou l'évolution du marché, est-ce que ça vous pousse aussi à changer de technique, de média, de style, d'occasion ou voilà, que ça soit de passer de l'illustration à la BD, au livre illustré, pas de...
C'est-à-dire qu'on fait... En fait, ce qu'on est là, même si on peut dire qu'on est des artistes, en tout cas, on n'est pas des artistes peintres, on ne passe pas par des galeries. Enfin, je ne sais pas, pour toi, je ne sais pas, c'est peut-être un peu différent. Donc, on est des artistes et en même temps, on travaille pour une entreprise, pour une industrie, qui est le livre. Et donc évidemment, moi je l'ai bien vu et je pense qu'en BD ils l'ont encore plus vu. Quand il y a eu l'arrivée de l'informatique, il n'y a plus beaucoup de coloristes qui ne le font pas par Photoshop. Ouais. Il reste encore quelques tradis, mais c'est très très peu. Hein. Parce que tout simplement c'est une question de coût. C'est que par Photoshop ça va super vite puis ça coûte pas grand chose. Et donc,
c'est-à-dire que l'éditeur saute l'étape du photograveur.
Ben voilà.
Avant, il y avait le dessinateur, le photograveur et l'imprimeur. Maintenant, pouf, il n'y a plus le photograveur.
Et moi, on me demande aussi un peu ça quoi, au niveau d'illustration. Alors après, simplement, j'ai trouvé le moyen. J'ai dit, puisque c'est comme ça, au lieu d'avoir une illustration comme ça, ils auront ça. Donc alors après, quand je leur amène ça, ils le posent sur la table, ils regardent, ils font « Ah, ah ouais ». Et finalement, ils ont donné les dessins à une boîte qui s'appelle Quadrilaser et ça leur coûte nettement. Enfin, quand je leur ai demandé si ça doit vous coûter plus cher de faire les scans par cette boîte-là, ils m'ont dit non. Et puis, quand il y a eu une réunion qui a été finie et que moi j'étais encore là, ils m'ont dit écoute, Philippe-Henri, tu nous coûtes vraiment plus cher. Voilà, c'est tout, c'est clair. mais ça a été aussi une volonté, eux, après, de le faire. Mais si moi, je leur avais pas fourgué des dessins comme ça, avec 80 dragons dedans, qui les obligeaient à le faire, franchement, sincèrement, ils n'auraient pas mis des sous dedans. Et ce que je comprends, je veux dire, c'est une industrie, c'est ce que je redis, quoi, c'est une industrie, et leur intérêt, c'est de dépenser moins pour gagner plus. Donc, s'ils peuvent, par les techniques modernes, avoir des moyens de dépenser moins, bah, ils vont l'utiliser, ils vont demander aux artistes de l'utiliser. Le problème, c'est qu'ils tombent des fois sur des monstres qui n'ont pas envie de le faire. Voilà. Bon. Je ne sais pas si je suis très clair. Mais...
Non, mais c'est pour savoir aussi si est-ce que les projets vous poussent à les projets ou les rencontres vous poussent à changer de technique ou à changer de style, ou est-ce que c'est une volonté propre de dire non, non, bah, tiens, je vais passer à autre chose parce qu'il y en a marre de tomber des échafaudages, ou parce que je commence à avoir mal ici ou là, ou voilà. Est-ce que c'est une démarche occasionnelle, volontaire, ou...
C'est un peu des deux, hein.
Voilà. Disons, c'est ça, ça dépend des cas.
Ouais, moi, changer de style, c'est pas, il n'y a pas une volonté, tu vois. Il y a des illustrateurs qui font toujours le même univers parce qu'ils adorent ça, tu vois. Enfin, il y a Philippe Monchu, par exemple, qui est un copain, qui fait un boulot énorme là-dedans. Mais moi, je sais que je ne pourrais juste pas, tu vois. C'est moi, refaire la même image quasiment toutes les semaines, mais je me mets une balle, quoi. C'est pas possible. Et c'est presque, c'est vraiment, c'est pas une qualité en même temps, hein, parce que ça a joué en ma défaveur, tu vois, sur certains éditeurs qui voient pas, qui savent pas vraiment ce que je vais livrer comme image.
Et puis, ouais, bon, puis des fois, je me plante. Où te placer, en plus.
Comment ?
Ils savent pas forcément où te placer, ce qu'ils vont obtenir.
Ouais, ça, c'est aussi un autre problème. Mais non, mais c'est vrai qu'en même temps, on se plante de temps en temps. Il y a plein de bouquins dont je suis pas content, parce que, ben voilà, une fois fini, une fois, ben, tu peux plus revenir en arrière, et c'est pas possible. Mais c'est pas une volonté vraiment de changer d'univers ou de changer de style. Tu vois, moi, j'essaye vraiment de caler au texte dans sa globalité. Déjà, de comprendre le texte, de comprendre le sens, essayer de vraiment comprendre l'intention de l'auteur, essayer de le montrer un petit peu dans l'image, tu vois, pour donner envie, pas d'acheter le livre, de le lire. Ce qui est différent de la position des éditeurs, parce que les éditeurs, je l'ai dit ce matin, mais ils s'en foutent que vous lisiez le livre. Ils veulent que vous l'achetiez, même si c'est pour caler l'armoire de la grand-mère, tu vois. Moi, j'ai juste envie, c'est qu'on ait envie de le lire, qu'on ait envie de s'intéresser à l'idée, au sens du texte. Et il y a des auteurs qui, moi, m'ont sublimé, enfin, m'ont permis, tu vois. Il y en a deux, je leur rends hommage régulièrement, c'est Ayerdal et Jean-Claude Duniac. Ça a été vraiment, ils m'ont permis de découvrir deux facettes de mon travail. Et on a commencé à travailler ensemble il y a 25 ans, tu vois. Et on continue, parce qu'à chaque texte, j'ai qu'une envie, c'est en premier travailler pour l'auteur. Et donc c'est eux, ça me permet de me renouveler, tu vois, sans me demander de comment je vais changer de style ou des trucs comme ça, quoi. Mais après, c'est vrai que les éditeurs, bon, ouais, en fonction des projets, bon, quand tu travailles pour l'adulte ou la jeunesse, quoi, ça m'a poussé à faire autre chose aussi, tu vois. Mais c'est des rencontres,
c'est des occasions, quoi. Et puis au niveau, toi t'as créé ton propre objet.
Oui, bah au seul, niveau du style, tout ce qui est travaux d'illustration, que ce soit projet perso ou même les commandes, là je fais surtout du jeu de société. Moi avant tout, le premier objectif, c'est de me faire plaisir. Et voilà, et jusqu'à maintenant ça marche, ça fonctionne, enfin ça a l'air de plaire, donc voilà. Après, il y a tout ce que je fais pour Ankama. Bon, bah là, il faut que je colle un NDA, une direction artistique bien précise. Donc voilà, il faut que je colle à ça. Mais après, tout le reste, j'essaie de me faire plaisir. Voilà. Donc, ça, voilà. C'est le plaisir avant tout.
Et le fait de travailler avec un scénariste et donc avec plus un script pour ensuite le là, disons, mettre en...
Je me demande si c'est pas de l'écriture à deux mains ou du dessin à deux mains. Parce que tout s'interpénètre. Et c'est vrai qu'on lâche un petit peu d'un côté pour en reprendre un peu de l'autre. Il faut être très diplomate. Et il faut connaître aussi la personne avec laquelle on travaille, donc le scénariste. Mais ça, c'est la rencontre et la connaissance se fait sur plusieurs années. Dans les rencontres sur les festivals, on a le temps de s'apprécier ou pas s'apprécier, ça dépend. Et donc, une fois que ça peut coller à ce moment-là, on essaye d'avoir... le bon moment arrive. Où on part pour une collaboration. Et ensuite, essayer de vraiment restituer tout ce que demande le scénariste, on peut le faire, mais là-dedans, après on est limité par nos propres techniques et notre propre limite à nous, et donc c'est autre chose qui ressort. Mais la plupart du temps, je m'aperçois que les scénaristes sont toujours contents de ce qui en ressort. Nous, on n'est pas contents. La plupart du temps, nous, on n'est toujours pas contents de nos illustrations, de nos dessins. Mais le scénariste, lui, il est toujours content. Enfin, c'est ce qui m'est arrivé.
C'est à la plupart du temps, ils ne savent pas dessiner. Donc,
c'est qu'il y a un avantage. S'ils savaient dessiner, ils ne donneraient pas de travail. Hein, donc,
Mais s'ils savaient dessiner, je leur ferais bien un petit scénario pour me venger un petit peu.
Et justement, au niveau de l'évolution du marché, là on a vu l'évolution technique, mais au niveau de l'évolution du marché et de l'arrivée justement de l'outil informatique qui a fait en sorte qu'il y a de plus en plus de graphistes et bizarrement moins en moins de dessinateurs. On peut devenir graphiste, illustrateur en deux clics, en collant ci, en prenant ça, en mélangeant.
D'accord. J'avais vu Jean-Baptiste Monge qui effectivement montrait comment faire une caricature et il avait pris une photo et puis avec Photoshop machin au bout du compte on a l'impression qu'il l'avait dessiné alors qu'en fait il n'y avait absolument pas de dessin, il n'y avait que la photo transformée et puis après quelques retouches.
Mais à côté de ça il y avait son travail sa capacité à lui de
mais il montrait, ça, il était tellement énervé qu'il montrait que
le fait d'être confronté avec maintenant, plus de graphistes qui vont. Je sais qu'il y a une tendance actuellement justement aux couvertures de livres qui sont plus épurées ou plus du travail de photos ou de retouches photos. Ça, au niveau des couvertures, ça se sent vraiment. Ou vous avez réussi à avoir votre ligne et pas avoir besoin de trop être en concurrence avec ce genre de.
Moi, je pense qu'il y a quand même une concurrence parce que la couverture où il y a une photo, tu ne l'as pas illustrée. Donc, toutes celles que tu n'as pas illustrées, c'est globalement, potentiellement un concurrent quand même. Après, si tu veux parler de Bragelonne.
J'ai pas de. Vraiment.
N'arrêtez pas de parler de Bragelonne. Mais c'est vrai que. Tu vois, pour reprendre un petit peu ce que disait Siro, effectivement, le fait d'avoir de l'image gratuite, abondante, accessible à tous et des outils d'image a donné l'impression et a faussé un petit peu la donne, a donné l'impression à tout le monde d'être on est tous photographes, on est tous devenus photographes, on est tous devenus retoucheurs d'images à un moment journalistes, enfin bon plein de et alors que c'est faux quand même et c'est vrai qu'aujourd'hui un éditeur aura tendance à s'immiscer, moi je trouve, plus dans la fabrication de l'image parce qu'il sait pertinemment que tu peux la retoucher ad vitam aeternam, il sait pertinemment que lui-même, il peut peut-être la retoucher sans t'en parler.
Ça arrive.
Du coup, il y a quand même une espèce de non-respect du travail, là, de la création, qui est quand même...
Mais en France aussi, parce que je sais que dans les pays anglo-saxons, c'est vraiment, vraiment très marqué. Jono en parlait, c'est monstrueux. Mais, pourtant, France, c'est Jono... Et ils retrouvent des dessins découpés, machin, des personnages retournés à droite, à gauche, alors qu'en fait ils étaient inversés. Enfin, et ça, sans ça, en parler, c'est-à-dire ils voient le truc imprimé.
Moi ça m'est arrivé. Après, il y a aussi par exemple l'éditeur qui publie le croquis couleur et qui a juste oublié que tu avais une illustration finale que tu lui as fournie la semaine d'après, mais qu'il a oublié que c'était. Ça m'est arrivé.
Ça veut dire que le croquis couleur était vraiment bien fait.
Ouais, mais du coup, toi tu sais que. C'est quand même aussi une chose de plus, et que c'est con, ça n'apparaît pas. Mais voilà, sur cet apport technique, tu vois, je trouve qu'il y a ça quand même. À un moment donné, tu es obligé de dire, là je peux plus, quoi. Parce qu'il y a un sens de l'image. Il y avait une couverture d'Éric Simard, par exemple, avec un personnage de face. Comment ça s'appelait Sohan l'Insoumise, où c'était Mango, personnage de face, très gros plan du visage. Avec la terre derrière, en fait. Et on me demande de passer, à un moment donné, l'ultime modification, c'était passer la terre de gauche à droite, quoi. Alors que c'était une illustration, à l'époque encore,
traditionnelle,
à l'aéro sur papier, que j'avais scanné. Donc, j'aurais pu la modifier. Mais en même temps, il y a un art de l'image qui s'appelle la composition de l'image, quoi. Et ça, l'éditeur, même s'il bidouille sur Photoshop, il n'a pas eu cet enseignement-là. Donc, une terre à gauche, pour moi, c'était pas une terre à droite, quoi. À un moment donné, il faut dire stop. Mais le problème des éditeurs français, je crois qu'il est au-delà de ça quand même. je pense que le premier problème de l'éditeur français, c'est qu'il ne répond jamais. Hein, on envoie un courrier à un éditeur en France, ben, c'est pas la peine d'attendre une réponse, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Quoi. Si elle est bonne, c'est que tu as tes images, elles sont publiées, tu t'en rends compte quand tu es. Enfin, je caricature, mais c'est juste, ça c'est assez dément quand même. Hein. Tu cites des anglo-saxons, tu cites. Il y a une autre culture, quoi. Il y a vraiment un autre
Oui, c'est vrai que dans le monde anglo-saxon, si vous voulez, la grosse différence, c'est que l'illustrateur dans le monde anglo-saxon, il est représenté par un agent. Donc, évidemment, derrière ça, les contrats ne sont pas les mêmes, le rapport avec l'éditeur n'est pas le même, tout change. Tout change. À partir du moment où il y a un agent, il y a quelqu'un derrière qui s'occupe de vous, c'est sûr que nous, on est tout seul. Mais il ne faut pas oublier aussi que dans le monde anglo-saxon, ils ont le copyright et nous, on a le droit d'auteur. Et que les éditeurs en France veulent absolument faire venir le copyright, il est hors de question que le copyright vienne en France. Parce qu'il ne reste plus rien. C'est ce qui permet, par exemple, aux États-Unis d'avoir Superman dessiné par 20 000 personnes. Voilà. En France, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On crée un personnage, il est à nous. N'en déplaise aux éditeurs, n'en déplaise à tout le monde. Voilà. C'est notre travail, c'est à nous. Après, bon, ils ont d'autres moyens, mais
là, on ne veut pas. Systèmes, et ça peut apporter des choses. Enfin, toute la nouvelle génération de Spirou, par exemple, apporte des choses vraiment très intéressantes aussi. Mais
Le personnage n'appartient pas aux auteurs.
Voilà, c'est un personnage qui était déjà à l'origine, qui passait de main déjà à l'origine.
Ouais. C'est un personnage d'éditeur, c'est pas un personnage d'auteur. Ouais, donc ça n'a rien à voir.
D'ailleurs, Astérix, finalement, je crois qu'il va quand même laisser le droit à.
C'est quelqu'un d'autre qui décide.
Oui, mais ça devient un personnage, ça devient un personnage d'Hachette. Ouais,
même si à l'origine, il voulait vraiment
garder. Ils ont eu l'accord de l'auteur aussi. Ouais.
Je sais plus. Voilà, ça y est, ils ont réussi. Non, je vais avoir un coup d'œil à la montre, mais c'est pour avoir une idée. Si vous voulez poser des questions,
je vais allumer pour qu'on voit un peu.
Ouais. Ah oui, ouais. Alors là, tout à fait, totalement. Ah oui, c'est très très différent. Ah, je vous dis, c'est ce qui se passe avec Superman, avec tous ces comic héros qui appartiennent aux maisons d'édition, c'est pas possible. Par exemple, prenez un personnage comme Calvin et Hobbes de Bill Watterson. Il faut savoir que les syndicates, donc, qui sont les propriétaires de droits, tout ça, auraient très bien pu faire Calvin et Hobbes sans Bill Watterson. C'est fort possible. Le problème, c'est que c'est finalement impossible parce que Bill Watterson est un génie et que faire Calvin et Hobbes sans lui, c'est pas possible. D'autant plus qu'il est le premier à avoir fait un procès aux États-Unis pour empêcher ça et qu'il y a un procès qui fait jurisprudence. Le droit, on peut en parler. On peut parler, par exemple, des problèmes de droit à la mort de l'auteur. Vous avez aux États-Unis une société qui s'appelle Disney et qui a fait un premier procès pour faire reculer le droit de propriété pour un personnage. Parce que jusqu'à présent, les personnages dessinés, tous autant qu'on est en France ou dans le monde, on va dire au bout de 70 ans, il est mort, quoi, il a disparu. On n'en entend plus parler.
C'est-à-dire, ça tombe dans le même public.
Oui, ça tombe dans le même public, mais de toute façon, c'est inconnu. Voilà. Ouais. Oui, mais 70 ans après notre mort, et donc le personnage, il est inconnu, quoi.
Oui,
c'est fini. C'est personne ne connaît. Encore le problème, c'est que depuis que Disney est mort, et surtout UbiWorks qui a inventé Mickey, le personnage est tombé dans le domaine public. Donc tout le monde peut faire Mickey. Mais Disney a fait reculer les droits sur 10 ans ou 15 ans, je ne sais plus. Et dans quelques années, ça va à nouveau retomber, et donc ils vont à nouveau refaire un procès. Vous imaginez si le personnage de Mickey tombe dans le domaine public et que le monde entier peut dessiner Mickey sans passer. C'est pas possible. Mais ça, alors c'est un truc qui ne s'est encore pas vu. C'est une chose qui ne s'est pas vue. Après, ils ont trouvé d'autres systèmes. Alors, c'est le coup du Petit Prince. Parce que bon, nous, on a eu affaire en tant que dessinateur à Émile Cole, à la famille qui s'occupe du Petit Prince. Et donc, interdiction de faire ci, de faire ça. Et puis d'un seul coup, tout le monde a pu faire tout un tas de choses chez Gallimard. Il y a des tas de bouquins. Il y a le Petit Prince de Spar, le machin, tout ça. Mais en fait, non, c'est un système qui a été inventé par les héritiers de celle qui a fait autant N'importe le vent. C'est-à-dire, on prend les personnages d'un livre et on les remet tous dans un autre livre. Donc, c'est reparti à nouveau pour les droits sur le personnage. Alors, on peut publier le livre qui est tombé dans le domaine public. En revanche, on ne peut pas utiliser le personnage, sauf à payer. Voilà, d'où l'intérêt d'avoir refait le Petit Prince et machin. Mais ça, si vous voulez, c'est des problèmes, comme vous dites, ça vient des pays anglo-saxons, et finalement, ça commence tout doucement à arriver en France. Voilà. Mais je comprends, je veux dire, on est des artistes, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On travaille pour une industrie. Et il faut bien se mettre... De temps en temps, j'essaye de me mettre dans l'optique de l'éditeur. Je me dis, mais bon sang, moi, je trouve que mon employé est vachement bien, il dessine, il rapporte des sous. Il faudrait qu'il en rapporte un peu plus.
Hein? Ce jour-là, c'est le jour du cigare, c'est ça.
Ouais. Et donc, il faut être logique aussi. Sinon, à ce moment-là, il n'y a qu'à être un artiste, à faire des tableaux. Mais je vais vous dire, il y a un autre industriel, il s'appelle le galeriste. Donc, de toute façon, tant qu'on est artiste, pour vendre et pour vivre de son bien, tout à l'heure, tu disais une chose sur le fait que tu faisais les textes, tu illustrais, pas forcément pour vendre le livre, mais aussi pour le faire connaître. Là, pour le coup, là, je suis totalement en opposition. Moi, je le fais aussi pour vendre le livre, et il faut qu'il se vende, parce que s'il ne se vend pas, je ne peux pas continuer. Si je ne continue pas, ben, il faut que j'aille faire autre chose comme métier. Et déjà, quand ça se vend... Donc, voilà, c'est un truc entre deux. C'est un métier illustrateur. Je trouve que c'est un métier entre le métier artistique, enfin, et dessinateur BD, c'est pareil. Un métier artistique et cette industrie qu'on appelle le livre, quoi.
Et dans la BD, on commence à trouver la parade en ce qui concerne la production, parce qu'un dessinateur, il fait un album par an. Là, on essaye de faire des séries avec plusieurs dessinateurs. Donc les séries, c'est tous les deux mois ou tous les trois mois. Voilà, ça se fait de plus en plus maintenant.
Même pour les plus vite, avec un storyboarder qui va
storyboarder.
En fait, c'est parce que les dessinateurs comme le M. Tota, ils ne sont pas assez rapides. Parce que Uderzo, à la grande période, il faisait deux planches des Chevaliers du Ciel, deux planches d'Astérix, une Doom Papa, cinq en cinq jours.
C'est que je suis pas, c'est pas que je suis pas assez rapide, c'est que je prends mon temps pour faire ce
ouais,
que j'ai fait.
Mais la période dans Uderzo, c'était monstrueux quand même. Parce que Uderzo, la période que je vis là, c'est quand même Canon Bleu ne répond plus, pour ceux qui connaissent les Chevaliers du Ciel. C'est Astérix, le Tour de Gaulle, et le dernier épisode de Papa. Quand on voit la qualité des planches, en 5 jours et demi, ça veut dire une planche en un peu plus d'un jour. C'est monstrueux.
C'était une autre époque ouais, aussi.
Mais cet homme a terminé. Il y a eu un temps où il avait le problème de tendinite que certains connaissent, et il se scotchait le crayon à l'index et il mettait le pouce et il scotchait le tout et il faisait.
Il dessinait quand même.
Là, c'est monstrueux. Arriver à ce stade-là.
Pareil, il y avait des problèmes avec le pilote aussi.
Mais on est quand même super bien protégé. Enfin, moi, je suis un peu différent parce que je suis de l'illustration jeunesse. Donc, on a des protections à cause de la charte des auteurs. Donc, on a des protections, un truc, c'est très spécial. Au niveau des couvertures de la BD, vous commencez. On a eu des rapports. Les gens de la BD ont voulu se mettre en rapport avec la charte des auteurs et tout ça. Pour
oui, parce que c'est-à-dire que le dessinateur de BD, il n'était pas reconnu. On ne savait pas ce que c'était. On nous avait mis avec les peintres, avec les écrivains, avec les journalistes. Là, on nous a mis auteur de BD. C'est-à-dire que on était dessinateur de BD, on n'était même pas auteur de BD. Maintenant, nous sommes auteur de BD. Et qu'est-ce qu'on disait au juste ?
Oui, ben non, c'est le statut, quoi. Nous, on a un statut un peu
ah, oui,
plus.
Oui. En ce qui concerne
pour ceux qui font les couvertures et tout ça, c'est peut-être un peu différent.
Ça revient. Moi, je dessine, je parle pas d'habitude. Alors donc, en ce qui concerne les protections, maintenant il y a un syndicat des auteurs, etc., etc. On essaye aussi d'avoir un petit peu des petites sécurités. C'est vrai que nous, on travaille dans notre coin, il y a des choses, tout ce qui est administratif, oh là là, c'est embêtant, il faut faire des papiers et tout. Nous, ce qu'on veut, c'est dessiner. Et puis on s'aperçoit qu'à côté de ça, il y a des gens qui trouvent le malin plaisir en nous donnant des tout petits trucs de rien du tout qui nous empêchent de dessiner. Donc, c'est toujours embêtant de passer de notre boulot à nous, de notre passion à nous, à un truc qui est vraiment pas passionnant à faire, mais qu'on est obligé de faire au dernier moment, bien entendu. Donc, on a des protections en ce qui concerne maintenant notre travail. Moi, les seuls embêtements que j'ai eus, c'est par rapport aux couvertures, puisque l'éditeur, il veut que ce soit quelque chose de vendable, commercialement vendable, que ce soit commercial et vendable. Et nous, ce qu'on... Enfin, quand j'idéalise une couverture, c'est pour que ce soit le plus artistique possible. Donc, c'est vrai que j'en fais plusieurs. Maintenant, je fais plusieurs couvertures. Je m'interdis d'avoir une préférence, parce que je suis sûr que ça ne tombera jamais
sur ce que tu préfères.
Et après, je laisse se débrouiller. Et je pense qu'il faut, comme je disais, il faut être diplomate. On lâche un petit truc. On sait que la couverture, c'est pour attirer l'œil, pour attirer d'autres lecteurs. Si on arrive à attirer beaucoup plus de lecteurs, ça aidera le bouquin à se vendre mieux. Donc on aura un peu plus de liberté après pour faire ce qu'on a envie de faire. Et c'est vrai qu'au début, quand on va chez un éditeur, il est un petit peu embêtant, les couvertures, les premières pages, etc. Mais après, on a une paix royale pendant des années. C'est ça qui est bien. Et la couverture, et la, pardon, la BD, c'est sur un an, un contrat d'un an. Pendant un an, on nous laisse tranquille. C'est vrai que pour les illustrations, c'est des périodes de temps beaucoup plus... Ouais. Voilà, il faut faire du sport, quoi. Aller à droite, à gauche.
Juste pour rebondir sur la problématique de la couverture, parce que c'est vrai que c'est quand même... On a l'impression que c'est... On parle d'illustrateur, on a l'impression qu'on est tous illustrateurs et que ça fonctionne à peu près globalement de la même manière.
Non, c'est des métiers très différents.
Moi, quand j'ai commencé, je voulais vraiment juste faire des couvertures de livres. Parce que, en plus, c'était juste... Au départ, c'était possible, hein, puisque... il y avait le nombre suffisant. Moi, quand j'ai commencé au Fleuve Noir, il y avait 5 inédits tous les mois, 5 inédits plus les rééditions. Donc on était, il y avait 8 livres qui sortaient tous les mois par le même éditeur, et les couvertures, autant de couvertures. Donc il y avait quoi, il y avait une dizaine d'illustrateurs qui travaillaient globalement toute l'année tranquillement avec ça. Et par contre, la spécificité de la couverture, déjà, le côté un peu bâtard du truc se voyait dans les contrats, c'est qu'on est payé en droit d'auteur, et c'est un forfait. Donc, qui que ce soit que vous illustrez, ça va être un forfait qui a été fixé par l'éditeur, et vous ne touchez pas de droit d'auteur, alors que vous le déclarez en droit d'auteur. Donc là, pour la petite sauce interne, c'est à quelle caisse vous allez cotiser. Quand vous allez voir la GSA, par exemple, qui est l'organisme normalement de recoupement pour l'URSSAF concernant les droits d'auteur, moi, la GSA m'avait sorti un truc, c'était juste une aberration totale. On dit, mais si vous faites des illustrations pour les couvertures de livres, vous êtes à la GSA, et si vous faites des illustrations à l'intérieur, vous êtes à la Maison des Artistes. Or, il y avait Manchu à l'époque, qui faisait que des couvertures de livres, et qui était à la Maison des Artistes aussi. Donc c'est le truc, c'est de toute façon, c'était... Et bon, pas plus tard que cette année, enfin, ils m'ont encore... Et on voit bien que c'est une espèce de truc flou qui n'existe pas, quoi. C'est un métier qui n'existe pas, illustrateur de couverture de livres, en fait. Ni juridiquement, ni au niveau de l'administration, et peut-être encore moins pour les éditeurs, finalement. Parce que, moi, à l'époque, en tous les cas, on s'aperçoit que les parcours d'illustrateurs qui se sont consacrés aux couvertures de livres, en fait, sont des accidents. Et qu'on a cru que l'exception faisait le métier. Et là, bon, je sais qu'il y a des illustrateurs de couverture de livres dans la salle, alors je ne vais pas les faire déprimer, je ne changerai pas de métier immédiatement. Mais c'est vrai qu'on s'est aperçu que c'était... on a fondé un métier sur des exceptions, quoi. C'était Brenton, c'était Swedmax, c'était Nicolet. C'est des exceptions qui ont été... C'est des carrières qui se sont faites sur une rencontre, en fait. Sur Swedmax avec Guamard, sur Nicolet avec Néo. Et ça a fonctionné comme ça. Et du coup, ils ont influencé, entre guillemets, d'autres générations, et on a cru que c'était un métier. Moi, pour la petite histoire, on a créé une association qui s'appelait Artefact, que j'ai présidée de 2000 à 2010, qui est une association qui n'existe plus aujourd'hui. Au départ, c'était pour la promotion, on ne voulait pas faire syndicat. Mais on a fait des... C'était juste... On a vécu des moments, mais d'un surréalisme total, parce qu'il y a eu des situations, par exemple... Alors, je balance, parce que... allons-y gaiement. Hein,
on n'est pas enregistré, tout va bien.
Il y avait des éditeurs, par exemple... comment ça s'appelait ? Oxymore, ça va me revenir son nom, une certaine personne. C'était juste aberrant, parce que par exemple, on avait c'était un procès avec, du coup, c'était Sandrine Gestin, à l'époque, qui nous avait sollicité pour ça, qui était trésorière de l'association, qui est une très bonne amie, et qui était confrontée au problème suivant, par exemple. L'éditrice avait cru que... Enfin, avait gardé les originaux pour les mettre dans son salon. Or, quand on fait une illustration de couverture, on reste propriétaire de l'original. Et en fait, on l'a attaqué, et l'argument en face, qui était juste surréaliste, c'était, mais
j'ai payé.
L'illustratrice s'est inspirée de mon texte, donc je suis auteur de l'illustration. Je te jure, c'était en totale bonne foi de sa part, mais donc je ne sais pas où elle est partie, mais je pense que, tu vois, c'était heureusement qu'elle a arrêté. On a déclenché une grève, par exemple, chez J'ai lu. Ça, bon, c'est pas grand public, mais on était 70 illustrateurs à faire la grève des illustrations chez J'ai lu. Donc ça a repoussé des offices de sortie. Donc c'était vraiment un peu du combat quand même, quoi. Il y a eu un procès contre Gallimard, la sortie d'un livre. L'année de création de l'association, le même jour, c'était lors des Utopiales. En fait, un livre sort, ils étaient hyper contents de sortir le livre. Puis on s'aperçoit que toutes les illustrations dedans, aucun illustrateur n'était au courant. Et ils avaient été, en fait, à la maison d'ailleurs, donc, qui est le musée de la science-fiction en Suisse, lequel je travaille de temps en temps, qui a une superbe expo en ce moment, c'est Alexis Briclot, allez-y. Bon, j'ai arrêté. Mais, et donc, ils étaient partis là-bas, ils avaient fait des shoots, des illustrations exposées. Et il y avait encore le flash dans l'image, quoi. Et on voyait encore le flash qui avait. Et t'es là, tu dis, mais c'est pas possible. Ah, ben, excusez-nous, la personne qui s'occupe des droits d'auteur pensait régler ça plus tard. Ils avaient royalement proposé 500 euros à Casa pour le dénommager, donc on avait fait. Et puis bon, du coup, ça montait un peu, forcément. C'est des comportements aberrants. Aberrants. On travaille tous ensemble pour la sortie d'un livre, et finalement, tu te fais piller par ton propre client, quoi, l'éditeur lui-même. Et voilà. Et c'est vrai que bon, moi, j'ai rencontré assez peu d'éditeurs, il faut bien l'avouer, qui m'ont donné envie de continuer à travailler avec eux.
Et votre collaboration avec vos éditeurs, vous avez l'impression vraiment que ça a changé depuis.
Moi, je trouve pas. Je trouve pas. Non. Disons que nous avons un tout petit peu évolué dans la connaissance de nos droits, mais je pense que les relations avec l'éditeur sont toujours aussi tendues. Et c'est encore plus difficile.
Avec le numérique, ça va être.
Encore numérique, on va voir. Le numérique, c'est vraiment le flou total.
Là où, soi-disant, il y a eu des discussions.
L'édition numérique, pas le travail numérique, mais l'édition numérique.
Travail numérique. Mais voilà, juste pour dire, s'il y en a qui veulent aller sur Palette, prendre les choses sur Internet. C'est juste pour vous dire que, bon, bah, les auteurs, on ne va pas forcément gagner grand-chose, mais les gens qui vont faire ça vont tuer les libraires. Tuer les libraires, ça veut dire ce qui se passe aux États-Unis, c'est tuer la diversité, et donc il n'y a plus de libraires. Voilà. Et donc tuer de la diversité, bah, ça veut dire qu'il n'y aura plus que Harry Potter, Marc Lévy et Guillaume Musso. Bah, on ne peut plus clair, c'est exactement ça, et c'est la situation des États-Unis. C'est-à-dire, c'est la société du best-seller. Ici le prix unique du livre a sauvé le livre, mais je veux dire a sauvé donc notre travail, mine de rien.
Et a sauvé accessoirement les éditeurs.
Oui, non mais tout le monde. Ça, tout le monde. Aussi mais c'est bien pour ça que je mets tout le monde dans le même panier. Ah, c'est pas une extrapolation. Hein. C'est aux États-Unis, par exemple, sur Amazon l'année dernière, un tiers des livres vendus sur Amazon sont pour téléchargement, Kindle. C'est très bien, tant mieux. C'est vrai que les gens, c'est vrai que des livres, c'est monstrueux, quoi. Je veux dire, j'ai une pièce, moi, c'est rempli, c'est une horreur.
Non, non, la vente du numérique a dépassé la vente.
Ah, ça y est. Ah bon, voilà.
Aux États-Unis, on vend plus de numérique que de papier.
Bon, alors je suis resté, donc c'était il y a 2 ans. Alors, je crois que c'était l'année dernière, c'était il y a 2 ans.
Mais moi, là où je trouve que c'est emblématique de la mauvaise foi avec les éditeurs, c'est quand on s'aperçoit qu'il y a eu le même contrat quand les sorties numériques sont arrivées. Il y a eu le même contrat en proportion de droits d'auteur. Le même contrat était conservé. Voilà. C'est-à-dire, globalement, il y a 25% qui part chez l'éditeur, on va dire 50% sur toute la chaîne de distribution, quelques autres qui partent de ci, de là, et il y a quoi, 6-7% pour l'auteur.
Et donc, c'était la même chose.
Mais tout ce droit a toujours été justifié par un stock énorme, parce qu'entretenir un stock de milliers de livres, ça veut dire des hangars réfrigérés, voilà. Gardés,
tandis que là, il y a plus
des
rien.
Transports. Comment ?
Oui, tandis que là, il n'y aura plus rien.
Et tandis que là, il n'y a plus rien. Mais les contrats étaient les mêmes. C'est là que tu te dis, bon... Là,
les contrats sont toujours les mêmes.
C'est sûrement de la mauvaise foi, quoi.
Non, mais les contrats sont quasi les mêmes.
Quand il y a un contrat, parce qu'il y a certains cas où, non...
Donc, vous voyez, illustrateur, parce que là, on est venu pour parler d'illustration, du métier d'illustrateur, mais en fait, très vite, en fait... Bon, j'ai été élève à Émile Cole, et il y a une chose, quand on est élève, qu'on n'écoute pas. C'est les trucs sur les droits et tout ça. Et en fait, très vite, on s'aperçoit qu'illustrateur, pour ceux qui vont l'être, font tout ça, c'est un tiers de dessin et puis c'est 2/3 de papier.
La partie administrative est énorme par rapport.
Et quand vous avez des problèmes avec les impôts, vous allez voir les impôts, c'est ce que tu disais, ça n'existe pas. C'est-à-dire, je suis tombé moi des fois avec des gens.
Les impôts.
Donc c'était à moi de m'en occuper en téléphonant à Paris au ministère des Finances, machin, tombé coup de bol sur une personne qui savait comment faire, voilà. Et tout ça, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Mais on ne peut pas faire autrement, quoi. Ou à défaut, on vit comme un phasme. On est un être léger, on ne mange pas, et on fait du dessin toute la journée.
Ça, on peut le faire au début pendant 1 ou 2 ans, mais après, c'est fini.
Ou alors, on est comme Karl Marx. On a une femme très riche, et on peut dire des trucs. Ça, oui. Et c'est elle qui s'occupe de tout. Et nous, mais beaucoup d'illustrateurs sont comme ça. Beaucoup sont mariés et la femme s'occupe absolument de tout. Des papiers, des machins, et le dessinateur fait.
Ce qui est fou, c'est que.
Faut pas l'oublier.
Quand on a ce discours-là qui, avec quel que soit l'éditeur, hein, dès qu'on commence à gueuler un peu sur les droits, à être, on pourrait penser à une augmentation. Ça fait 10 ans qu'on est au même tarif. Moi, ça m'arrive régulièrement avec des bons, enfin des éditeurs super sympas. Alors, ils sont sympas, on va pas les embêter. Dès qu'on commence à l'ouvrir, quoi, je dirais un petit peu, il y a l'argument du genre, mais vous savez, si les éditeurs n'étaient pas là, il y aurait pas d'auteur. Nous, on se décarcasse pour vendre vos livres. Mais quand même, il faut quand même se rendre compte que dans la chaîne du livre, les seules personnes qui ont régulièrement des soucis, je dirais, que je connais, d'argent, à savoir... Il y a beaucoup d'illustrateurs qui sont un mois sur deux au RSA, il y en a d'autres qui sont effectivement, qui cherchent désespérément une femme jeune, belle et riche, qui font des jobs à côté. Moi, j'ai des amis illustrateurs, je ne vais pas les citer, mais qui sont des talents purs qui ont déclenché chez moi rarement le geste d'achat à cause d'une couverture, et ça m'arrive, et ça m'arrive rarement quand même, mais ça m'arrive, et pour les personnes en question, c'est des amis intimes, et qui donnent des cours de dessin dans des maisons de retraite,
pour s'en sortir,
des trucs comme ça. Tu dis là, c'est quand même juste injuste, parce que dans toute la chaîne du livre, les seules personnes qui ont des problèmes sont les auteurs et les illustrateurs, alors que la quatrième secrétaire ou le stagiaire qui amène le café pour la énième fois n'a pas ce
t'as deux trucs, t'as d'abord l'illustrateur, c'est le plus mal loti, et après, mine de rien, même si le libraire a 38%, 40%, voire pour l'école des loisirs 48%, c'est le système de cavalerie, donc en fait il y a de l'argent qui est toujours dehors, donc le libraire en a de l'argent, le problème c'est qu'il est toujours dehors et qu'avant qu'il soit remboursé, et hop, et il faut racheter à nouveau d'autres livres, et hop, et donc voilà. Donc non, les seuls qui gagnent vraiment leurs livres dans la chaîne du livre, c'est la diffusion distribution, voilà. Là il y a 50%, bon, et alors on va dire que les petites maisons ont du mal à vivre, donc elles ont du mal à payer les illustrateurs. Elles peuvent donner des gros pourcentages, mais comme la diffusion est catastrophique, donc bref, au bout du compte, on gagne 3 francs 6 sous. La plupart des grosses maisons, en fait, sont toutes diffuseurs-distributeurs. Donc, en fait, vous discutez avec une maison qui vous dit « Oui, mais moi, c'est le seuil. » Bon, mais c'est la Martinière, donc c'est Volumen. On vous dit « Oui, mais on peut vous donner que ça. » Oui, mais derrière, il faut additionner ce que gagne l'éditeur et ce que gagne le diffuseur. Et on vous dit « Oui, c'est pas la même boîte. » Et l'autre fois, j'ai dit « Oui, c'est pas la même boîte, mais au bout du compte, c'est le groupe La Martinière. » Donc, c'est un monsieur qui a un vêtement avec différentes poches. Alors, effectivement, l'argent est dispatché dans différentes poches. Mais au bout du compte, il est bien dans le même vêtement. Et ce n'est pas mon problème d'illustrateur, d'artiste, de savoir comment lui dispatche son argent. Simplement, moi, je demande d'en avoir un peu plus. C'est tout. Et c'est vrai que dès ça, tous ceux qui vont être illustrateurs, je peux vous dire, vous prenez le piolet et puis vous battez. Ou alors, vous êtes un génie. Vous êtes un génie absolu. Tout le monde vous veut. Là, voilà, vous êtes d'outre-mer, voilà. Vous vendez 100. Tout le truc est là. C'est-à-dire, si vous faites des livres et vous vendez 150 000 exemplaires, vous avez un poids économique. Si vous avez un poids économique, vous pouvez demander ce que vous voulez. C'est tout. Parce que simplement, vous dites, écoutez, moi, vous ne voulez pas payer ça, je m'en vais, je vais voir ailleurs. Il n'y a pas de problème. Voilà.
C'est pareil dans tout.
C'est pas pour ça. Si je dis ça aux gens, c'est que la même chose. Les problèmes sont partout pareils. Hein. En plus, il faut. Il y a des fois, il y a des jours. Enfin, je sais pas si vous arrive. Il y a des jours où j'en ai tellement assez que je voudrais juste avoir un boulot de bureau, ne pas penser, arriver au bureau, remplir des papiers comme faisait ma tante, des papiers d'assurance. Le soir, je sors. À la fin du mois, j'ai mon chèque. Basta, et on n'en discute plus. Et il y a des fois où vraiment c'est ça, quoi. Parce que en plus de tout le problème que tout le monde a, voilà, à part celui qui a gagné au loto 51 millions. Ces personnes-là, tout le monde a ces mêmes problèmes, mais nous, en plus, il faut qu'on trouve des idées. Alors, le hic, c'est que je ne sais pas si vous êtes tous des puces en fond. Moi, des fois, le fond, il est très atteint et il faut relire beaucoup de bouquins, il faut regarder le travail de beaucoup de monde et il faut remplir le puits et la bouteille pour à nouveau pouvoir replonger. Quoi.
Réutiliser un petit peu le stock d'images qu'on peut se créer.
C'est une question d'envie, surtout le matin. Moi, je sais que c'est une question d'envie. Alors, si on n'a pas envie, là, c'est catastrophe, il faut s'accrocher. Parce que c'est ça tous les jours, c'est répété tout le temps. Mais en fin de compte, on s'aperçoit qu'on ne travaille pas tous les jours. Enfin, moi, c'est vrai, c'est de la BD, c'est un peu différent. Je sais que j'ai un délai, donc pendant. Il y a des laps de temps où je me donne du temps pour faire d'autres choses. Je dirais, entre guillemets, de l'humanitaire. C'est-à-dire, ça a toujours trait à la BD ou à l'illustration ou au dessin.
venir à la table ronde comme ça.
Voilà, comme ça, là, aujourd'hui.
Ça va, ça.
Vous êtes bien tous atteints, tiens. Et donc, j'ai des laps de temps de respiration. Et comme je vous disais, si l'album se vend, si on tombe sur une bonne série, on peut prendre ce temps-là. Il ne faut pas en abuser, bien entendu, parce que, hein, parce que l'éditeur, lui, il ne sait pas que je suis en train de vous parler, là, en ce moment. Il pense que je dessine. Bon, il ne faudra pas lui dire. Hein. Et c'est une question d'envie, voilà. Des fois, pas envie. Alors que j'aime ça, hein, c'est un boulot que j'adore. Bref. Des fois, quand on n'a pas envie, c'est pas la peine.
Mais c'est vrai que le prix à payer pour la liberté est quand même assez énorme. Mmh. Moi, je vois souvent sur Facebook des commentaires « Ah, chouette, quel boulot !» Enfin, tu vois, quand on parle des expos, des déplacements, « Ah, super !» En fait, t'es là, de l'autre côté, tu... c'est vrai que le prix à payer est vraiment quand même énorme. Moi, je vois pour le problème de la couverture, une couverture de livre, ça veut dire toutes les semaines trouver un nouveau job. Et toutes les semaines, trouver des fois un nouveau client, parce que c'est pas parce qu'on est copain avec un éditeur qu'il va nous filer toute la production, quoi. Et moi, c'est sur l'histoire de la couverture, là où je trouve que c'est un petit peu injuste, parce que les éditeurs, quand ils téléphonent, il faut être juste
disponible
au top de sa forme,
disponible,
et être sûr de faire le meilleur boulot.
Oui, parce que là, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est les délais aussi. Hein. Ça joue sur notre travail, sur nos envies, tout ça.
Les délais sont
en ce qui concerne les illustrations, ça doit être assez, assez limité, alors, non ?
C'est vrai, à un moment donné, quand j'étais encore un petit peu jeune et plein d'illusions, je disais que ce qui est sympa en couverture, c'est que c'est tellement mal payé que c'était une bonne école pour la rapidité. Mais aujourd'hui, j'ai mis un bémol à ce discours. Mais c'est vrai que, ouais, une couverture, c'est 3 jours maximum. Alors maintenant, je prends plus de temps, parce qu'aujourd'hui, ben voilà, je préfère faire une belle image et de me foutre finalement des conséquences. Mais globalement, c'est juste, il faudrait que ce soit 3 jours, quoi. Enfin, pour un paiement de convenable, quoi. Donc à partir de là,
3 jours plus éventuellement la lecture du bouquin pour savoir de quoi
pour la lecture,
dont la lecture,
oui. Ah non, normalement c'est dont la lecture, mais ça arrive très rarement, quoi. Mais c'est vrai que la lecture d'un livre n'est pas comptabilisée pour l'éditeur. Non mais tu rigoles, je t'offre un livre en plus, tu vas pouvoir le lire gratuitement.
Ah mais sans la couverture, c'est moins joli.
Et moi les derniers, là quand je vois arriver des petits éditeurs par exemple, moi j'aime bien les rencontres visu, quoi, en fait, pour voir vraiment ce qui m'attend. Et pour l'anecdote, par exemple, un des derniers gros clash, ce sont donc les éditions Locomodo. Bon, bref, c'est juste un mec, c'est énorme. Parce que tu te dis, c'est pas possible, on n'a pas mis un concentré de vulgarité à ce point-là dans une seule personne. Et c'est arrivé, c'est les éditions Locomodo, qui est aujourd'hui un distributeur. Alors, il distribue plein de petits éditeurs qui, eux, font bien leur boulot, mais lui, par contre, c'est juste. C'est pas possible. Et en fait, l'auteur. Enfin, il y avait eu un DA, quoi, qui s'occupe de la relation avec les illustrateurs. Le gars m'appelle pour une illustration. Je lui dis, on se connaissait, donc, ouais, ok, super. Et là, je vois arriver le manuscrit par la poste. Arrivant de l'auteur lui-même, en fait, qui m'envoie le manuscrit, papier, dans la boîte aux lettres. Alors déjà, je me dis, putain, là, ça va être un sac d'emmerde. Et ça n'a pas loupé, parce que déjà, ça faisait 10 ans que j'avais plus reçu de manuscrit par la poste, quoi. C'est par email, on le lit sur l'écran, bon, c'est quand même plus facile. Là, je vois arriver le papier, je me dis, wow, ça va être bizarre. Je lis le truc, un livre qui me tombe des mains, je me dis, putain, là, j'étais sec, je sors de la lecture de du livre, enfin du manuscrit, un manuscrit c'est 800 pages éparses quand même, hein, donc c'est pas le truc qu'on peut aller lire en buvant un café, c'est pas possible, parce que le paquet il tombe, on est mort, quoi. Et je lis le truc complètement sec, aucune inspiration, et pour ce que j'avais compris du livre en même temps, hein, parce que donc premier livre, le gars il avait dû mettre 10 ans à l'écrire, enfin j'en sais rien, enfin, c'était son bébé, quoi. Et quand l'auteur il me dit c'est mon bébé, déjà tu sais que ça va être que des emmerdes. Et je fais l'illustration, l'éditeur me rappelle, bon c'était juste une aberration, je me fais pourrir, mais en 2 minutes, quoi, on se connaissait pas, on s'était jamais rencontré. Et puis finalement, l'illustration a été donnée à quelqu'un d'autre, et il s'en est sorti parce qu'il a pas lu le livre. Tu vois, c'est quand même fou. C'était Michel Bordery, bon, un ami, hein, et en fait l'éditeur a fait autrement, il lui a envoyé une fiche avec un résumé en lui disant voilà ce que veut l'éditeur. Et vu que ben, on est un peu différent avec Michel, moi je mets un peu trop d'affect, je pense, dans mes lectures, qui fait que ben, lui il s'en est sorti parce que voilà, il a fait le truc en disant bon, point barre, tu peux. Et, Et ça, je ne sais plus pourquoi je racontais ça.
Ça a rapport avec
mais les voilà, c'est les difficultés. Et l'éditeur te dit, ah, attends, je vais te payer pour lire un livre en plus. Donc,
classique.
Et voilà. Mais c'est un métier, à ce qui paraît.
Mais je pense que pour les couvertures, ils ont plus de délais. Parce que moi, j'en ai fait il y a très longtemps. Mais là, je bosse vraiment que sur des albums pour enfants. L'éditeur voudrait des délais, voudrait absolument que, bah, là je parle pour le deuxième Charles, voulait absolument que le deuxième suive le premier à un an. Et j'avais mis 16 mois pour faire le premier, donc je dis, je suis désolé, je vais bosser minimum entre 13 et 16 mois sur le deuxième, donc ça dépasse l'année, quoi, donc c'est pas possible. Donc partant de ce principe, j'ai commencé à laisser parler. Voilà. Et puis au bout de 3 mois, ils n'ont plus de nouvelles, moi non plus. Et puis j'ai fait mon truc. Là, j'arrive à un âge où je me dis bon, tant pis. Ils rentrent ce qu'ils rentrent comme sous, mais j'ai pas d'enfant. Hein. Donc il n'y a pas papa, j'ai faim, papa cadeau. Ça, c'est terrible. Hein. Là, ça vous oblige à sortir en dessin tous les 3 jours. Hein. Mais donc j'ai pas d'enfant. Donc je me suis dit bon, bah voilà, tu fais ce que tu as envie de faire et tu mettras le temps que tu mettras. Et l'éditeur aura le bouquin quand il l'aura. Voilà. Et donc là, pour le troisième Charles, plus personne m'embête, plus personne ne me demande rien. Pour ça, j'ai entendu il n'y a pas très longtemps Rebecca d'Outremer qui disait « Maintenant que j'ai du succès et tout ça, je suis plus libre et je peux choisir et je peux demander et tout. » Et moi, j'étais dans mon coin et puis je lui dis à table, je lui dis « Bah moi, j'ai pas de succès, j'ai rien, mais finalement, je fais ce que je veux. Hein. Je gagne pas assez, l'éditeur me donne pas assez d'avance pour m'imposer maintenant des trucs, c'est fini. On me l'imposait à 20 ans, j'en ai 49, on m'impose plus rien. » Voilà, c'est tout. S'ils veulent plus bosser avec moi, ben ils bossent plus avec moi. Voilà. Mais c'est, de toute façon, je cours le risque. Hein. Mais bon, je veux dire, il y a des moments, il y a eu des périodes dans ma vie où pendant 3 ans, j'ai pas eu de boulot. Hein. On vit avec 2 illustrations dans l'année. Donc, merci maman de ne pas me laisser crever de faim. Donc, il y a un moment donné où on se dit, bon, bah tant pis. Hein. Si les gens veulent plus, ils veulent plus. Hein. Moi, je continue à dessiner. Voilà.
On va finir là. Je vais juste finir justement sur une note un peu plus légère.
Ouais, mais on fait tous ce qu'on aime, de toute façon.
Non, mais je sais bien, mais c'est ça qui est terrible.
On a dû démoraliser.
Non, mais ça n'empêche qu'on continue à dessiner encore tous les jours. Ouais, c'est donc bien quelque part, on aime ça. On aime, mais c'est les sadomaso, ça.
Non, mais justement, il reste
8 mètres.
J'ai quand même un rapport, c'est je voulais savoir quelles étaient vos actualités et puis vos projets futurs éventuellement. Parce que là, tu viens de parler de Charles III. Donc, du coup, on va attendre un an ou deux, mais c'est pas grave.
Non, normalement, ça devrait être fin 2014. Mais le problème, c'est que j'ai déjà à peu près 3 mois de retard, mais même sur mon planning à moi tout seul. Parce que je sais. Voilà, le problème, c'est ce que tu disais sur le trou sans fond. Enfin, ce que je disais, le trou sans fond, le puits à sec. Et j'étais à sec. J'ai fait une mini-dépression parce que les bouquins ne se vendent pas assez, contrairement à ce que tu dis. Moi, j'ai besoin que ça se vende. Donc,
j'ai pas dit le contraire.
Bravo.
Donc, ce qui fait que, voilà, cette espèce de petite mini-dépression qui fait qu'on n'avance pas, qu'on ne bouge plus, qu'on n'a plus envie de dessiner. Et voilà, 3 mois de retard, et 3 mois de retard, c'est irrattrapable. À moins de bosser 18 heures, 15, 20 heures par jour, et j'ai pas envie, quoi. J'ai rencontré Gilles Bachelet, je ne sais pas si vous le connaissez, l'illustrateur, qui a fait les derniers bouquins qu'il a sortis, Madame le Lapin Blanc. Les 2 derniers mois, il bossait jusqu'à 18 heures, presque 20 heures, en tout cas 18 heures par jour, pour finir. Mais quand on voit le dessin du Lapin Blanc, c'est... voilà, jamais, jamais de la vie, je bosserai 18 heures par jour, c'est pas possible. Donc normalement fin 2014, mais voilà.
Bon, Jean-Philippe parlait de 3 mois de retard, ça me fait doucement rigoler. Donc moi j'ai encore 2 albums à faire, donc je vais les faire. J'en ai fait un tiers. À la fin de celui-là, donc je vais commencer à penser au prochain projet. Ça me laissera le temps de terminer l'autre album, ça me laissera le temps de
vraiment mettre au point. Les Conquérants 3 ou un autre projet ?
Non, j'ai signé pour 5 albums les Conquérants 3, je vais aller jusqu'au bout. Alors, on m'a proposé de rallonger un petit peu la sauce, j'ai dit non. Parce que, c'est-à-dire que quand on fait une série, au bout de 2 albums, on voudrait déjà changer d'univers. Donc 5, c'est déjà bien. Je prends toujours plaisir à faire ça, hein, ça c'est sûr. Et donc je verrai après pour la suite. Pour le moment, je pense que je ferai quelque chose de personnel, mais alors là... ça se met en place dans la tête, mais après pour que ça ressorte sur le papier, je suis curieux de voir ce que ça va donner quand même. Mais bon, je vais déjà essayer de rattraper mon retard.
Ou alors c'était quoi le retard? C'était combien?
Oh, beaucoup plus que ça, on n'en compte même plus. Mais comment dire, on m'embête moyennement là-dessus.
Ouais, voilà.
C'est ça qui est bien.
Il a le temps de faire de l'humanitaire, donc.
oui, voilà. Donc, un peu plus de 3 mois, donc plus 2 heures aujourd'hui.
Vincent, on t'a pas beaucoup entendu.
Non, en fait, c'est vrai, c'est que j'ai pas le même. Le même.
La même quoi?
Comment? Oui, il y a ça aussi, oui. Non, mais au niveau de l'activité, je suis un peu particulier. C'est-à-dire que moi, le travail d'illustration personnelle, ou même. C'est plus en dehors de. Enfin, c'est le.
C'est en plus. Oui, c'est vrai.
Sans dilettante. Dans la journée, je fais mes 8 heures, 9 heures.
C'est le artiste de la table. Où on est vendu.
Je sais pas. Non, mais.
Vendu au grand capital.
Ouais.
Non, toi, tu fais le truc, tu le fais indépendamment.
Moi, je travaille pour une entreprise. De la journée,
on parle pour l'illustration. Tu as un côté très. Voilà, je suis un artiste.
Non, c'est que.
Non,
mais
on te dit que si, c'est tout.
Non, mais voilà. Moi, c'est sûr que je ne suis pas du tout dans la même position. À savoir que je travaille pour l'entreprise, je suis salarié de l'entreprise. Donc, je n'ai pas du tout la même pression que vous trois. Quoi.
Donc, tu es à la Sécu? Oh, c'est un miracle.
Oui. J'ai tout. Donc, voilà. Donc, donc moi, je n'ai pas du tout la même pression. Et l'illustration que je fais en plus, c'est le soir entre midi et deux, mais je me fais plaisir.
Mais en ce moment, tu bosses sur un projet? En dehors, je veux dire.
Ouais, donc en dehors de mon travail pour le dessin animé, décorateur. Donc je travaille actuellement à l'illustration d'un jeu de société. Il y en a un autre que j'ai fini il y a quelques jours, donc qui va bientôt sortir aussi. Après, j'ai une illustration à faire pour une exposition à Paris. Pour une galerie, une exposition collective sur le compte. Voilà. Après, j'aimerais bien refaire un deuxième livre. Donc il faut que je trouve un éditeur, ce qui n'est pas chose facile, bien sûr.
C'est vrai que dans ce cas-là, le premier, tu l'avais édité chez Ankama,
oui.
Parce que les rapports étaient assez bons.
Oui.
Mais tu as l'intention de chercher un éditeur d'abord et de... te lancer dans le projet ensuite ou d'arriver avec...
Alors les deux, c'est-à-dire que là je suis dans la période que je viens bientôt finir de chercher un éditeur que pour l'instant je n'ai pas trouvé, mais je suis dans l'état d'esprit où je suis prêt à le faire et l'auto-éditer. Maintenant il y a ce qu'on appelle des sites de financement participatif, ça j'y crois beaucoup, il y a pas mal de projets qui commencent à sortir, à émerger et qui sont très intéressants et ça fonctionne bien. Il y a la revue Illustrée, je ne sais pas si vous connaissez, qui est une dizaine de personnes qui a été mise en place par donc des illustrateurs, enfin différentes personnes de Lyon. Ils demandaient 5000 euros pour pouvoir le sortir. Ils en sont à, je crois, plus de 20 000 sur ce site. Donc voilà, si je n'arrive pas à trouver d'éditeur, je suis prêt à me lancer dans cette aventure. Après, je ne sais pas si je vais garder la motivation jusqu'au bout, puisque c'est en plus tout ça. Donc voilà. Le numérique, ça m'intéresse beaucoup. On part du numérique. Alors, donc oui, ça tue les libraires. Je pense que le numérique, ça va être une révolution, une révolution culturelle. Le rapport au livre va changer, est différent. Et donc je pense que nos métiers vont changer. Voilà. Le rapport au livre va changer. Je pense que le livre va de papier. Rapport au livre papier va changer. Je pense qu'on va être plus vers du beau livre,
vers l'objet,
vers moins de livres, mais vers l'objet, vers du beau livre.
C'est ce qui se passe avec la musique, où les albums sont de plus en plus mis en scène, il y a des coffrets.
Et je pense que voilà, après oui, effectivement, il y aura moins de livres, il y aura donc moins de travail forcément, mais dans le numérique, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc oui, c'est une révolution culturelle, je pense, le numérique. Parce qu'effectivement, le libraire va disparaître, mais ou peut-être qu'il faut qu'il évolue. Je sais pas. C'est sûr, en ce moment, on est dans une mutation liée à l'apparition du numérique. Et là, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'enjeux. Ça va être très compliqué.
Je sais plus.
Mais il y a beaucoup de choses à faire.
Je sais plus à quelle heure c'est, mais il y a la démonstration de Kadat. C'est peut-être demain ou je sais plus exactement. La démonstration d'un livre numérique qui s'appelle Kadat sur le monde de Lovecraft, qui est apparemment très impressionnant.
C'est moi le modérateur.
je sais pas.
Donc, ouais, donc voilà, le numérique, ça m'intéresse beaucoup.
Pas simplement des pages à tourner, mais voilà, il y a.
Non. Ah, oui, les livres augmentés. Moi, personnellement, je viens du jeu vidéo, on s'en en jeu vidéo, l'image. Enfin, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. On en est vraiment au début, et aller plus loin que le livre augmenté. Après, je pense qu'il y a un nouveau média à trouver par le numérique. Après, je ne sais pas, parce qu'il existe déjà des choses qui commencent à sortir, mais pour l'instant, là, tout le monde se cherche. On voit au niveau des éditeurs, des gros éditeurs, par exemple, il y en a très peu qui se lancent vraiment dans le numérique. Ou alors, c'est des adaptations de livres papier qu'ils mettent sur la tablette, mais il y en a très peu qui se lancent vraiment. Parce qu'en fait, tout le monde se regarde, commence à regarder qui va sortir quelque chose qui marche, trouver un format qui fonctionne. Puis alors là, tout le monde va, a priori, s'engouffrer, je pense. Mais bon, donc là, on est vraiment au début. Ouais. Donc le beau livre, parce que c'est ce que j'ai essayé de faire avec mon premier livre, là, et le beau livre et le numérique. Voilà.
J'ai donc. De mon côté, là,
après-demain,
ça va être finir une affiche pour un festival steampunk dans le Nord. Donc ça, on va continuer. Donc je prendrai peut-être dans le courant du festival des petites photos de costumes. Et puis me consacrer enfin à un site internet, parce que je n'ai toujours pas de site depuis 25 ans. Et puis alors globalement, quand même, le projet, c'est ce que tu disais un petit peu au tout début de l'heure et demie, là, c'est durer, quoi, en fait. Tu vois. Moi, je crois que ce que disait un petit peu Siro, à savoir se maintenir, c'est durer. Moi, je fais aujourd'hui très peu d'illustrations dans l'année, mais je suis content d'en faire encore. Tu vois, ça fait 25 ans, là, je fête mes 25 ans de ma première illustration, c'était 1989, donc tu vois, on va pas tarder. J'espère d'ailleurs faire tourner une petite expo comme ça, tu vois, 25 ans, 25 images, un truc comme ça. Et donc c'est duré, et ce qui fait que voilà, du coup voilà, me renouveler un petit peu avec le site internet et puis le livre illustré, parce que il y a beaucoup de choses qui m'ont tenu un peu éloigné de la table à dessin. Il y a eu les 10 années à la tête d'Artefact, j'ai passé une année à m'occuper de l'exposition d'Alexis Briclot à la maison d'ailleurs, donc qui a commencé la semaine passée. Ça m'a à chaque fois tenu assez éloigné du dessin. Et donc aujourd'hui, bon, il y a eu les 2 ans, j'ai passé 2 ans sur Le Champ du Troll avec Pierre Botero, un livre illustré, moi je trouve que finalement, en termes d'objet, finalement, il n'est pas représentatif de ce qu'on a voulu y mettre, parce que bon, bah, malheureusement, Pierre est mort avant la sortie du livre, l'éditeur ensuite en a fait ce qu'ils ont voulu. Bizarrement, je ne travaille plus du tout avec cet éditeur-là. Mais du coup, le livre se vend quand même, parce que pour un livre illustré, bon, il se vend bien plus que n'importe quel livre illustré, parce que c'est quand même Pierre Botero. Mais bon, eux, ils attendaient encore autre chose, donc du coup, ça ne s'est pas fait. Et donc, c'est me remettre aussi à ça. Voilà. En fait, mon souci premier, c'est, je pense, c'est j'ai plus de relations avec les auteurs.
Ouais. Trouver le bon auteur et la bonne relation.
Non, mais ça se passe bien, tu vois. J'ai des textes qu'on m'envoie. Mais après, me remettre à illustrer et puis redémarcher, c'est une autre aventure, quoi, tu vois. Et moi, j'ai plus de rapports avec les auteurs qu'avec les éditeurs. Enfin, plus de bons rapports avec les auteurs qu'avec les éditeurs. Donc, bon, peut-être qu'Artefact aussi m'a pas valu
avoir
la présidence de ce truc-là pendant 10 ans. Je pense que ça m'a un peu collé au basque. Parce que c'est vrai que quand tu vas voir Gélu pour leur annoncer, ben voilà, je vous amène une pétition de 70 illustrateurs, il y a Kaza qui vient réclamer ses droits, il y a Pierre Bordage aussi qui... Ben là, du coup, forcément, tu te fais un peu griller un peu partout. Mais bon, voilà, globalement, ça... continue quand même, tu vois.
Okay. Est-ce que vous avez des questions? Là, on a franchement débordé, mais...
Oui,
est-ce que c'était désagréable? Bon, c'est ça aussi.
Oui, c'est ça. C'est est-ce que vous êtes ennuyé ou est-ce que vous avez appris des choses?
Il n'y a pas grand monde qui soit parti en même temps, donc voilà.
Personne n'a soif.
Oui. Oui, oui.
À la taverne en bas.
Oui.
C'est vrai que vous nous faites découvrir un monde quand...
Bah ça, durer, c'est vrai, je pense que c'est le plus hard, vraiment. parce que d'abord pour moi ça passe aussi beaucoup par des modes. Moi j'ai eu comme prof un illustrateur qui était absolument fabuleux qui s'appelait Jean Clavery. Et Jean Clavery dans les années 80 c'était The Illustrator jeunesse quoi. Et maintenant quand vous questionnez les parents sur les salons de nuit, ils ne savent plus qui c'est. Voilà, quoi, c'est aussi clair que ça. C'est-à-dire qu'en plus de ça, les illustrateurs, c'est pas Rembrandt ni si je cite Arthur Rackham, ça va parler à quelques personnes. Pourtant, c'est balèze, mais c'est un de ceux qui va un peu plus parler. Si on prend, pour citer un exemple qui est assez fabuleux parce que c'est un truc de fou, vous avez un auteur qui a écrit un bouquin, qui était professeur à Oxford et qui a écrit un bouquin qui a eu une légère... enfin, une légère vente dans le monde et puis une légère renommée, donc Alice au Pays des Merveilles. Quand il a écrit Alice et qu'ils ont décidé de le faire, il est allé voir un illustrateur qui était tellement connu qu'il avait été anobli par la reine, qui s'appelle Sir John Tenniel. C'était monstrueux, quoi. C'est-à-dire, c'était vraiment... C'était un petit bonhomme qui n'avait jamais rien fait, qui va voir quand même The Illustrator en Angleterre. Et bien sûr, John Tenniel, s'il n'avait pas dit oui à Lewis Carroll, plus personne ne saurait qui il est, parce que de Sir John Tenniel, on ne connaît que les illustrations d'Alice au Pays des Merveilles. Il n'est plus rien d'autre. Or, Lewis Carroll, c'est Lewis Carroll.
La question que je vais poser également, c'était quel est votre lien justement entre l'illustration et entre guillemets, le monde artistique tel qu'on ne se le représente plus avec des tableaux, des galeries, etc.
Moi, j'ai pas de relation avec ça.
Il y a aucune relation, et je pense qu'il y a quelques auteurs BD qui en ont. C'est Bilal ou tout ça, oui, mais je crois pas que ce soit de la grande peinture. Non. Voilà, c'est. Enfin, moi, j'appelle pas ça, mais bon, c'est des goûts personnels. Hein. Tous ceux qui ont fait, même des dessinateurs BD, tu prends Max Caban ou autres, qui font, qui sont des dessinateurs de bande dessinée et qui font de l'illustration pour le coup. Font pas, je trouve, de la grande illustration. Il y a très très peu de gens comme Matotti, par exemple.
Il y a un souci financier aussi qui fait qu'il y a une relation avec une galerie. Parce que l'éditeur, le dessinateur est obligé un petit peu d'arrondir ses fins de mois. Et donc, en mettant en vente des planches, ça leur fait des rentrées supplémentaires. Et c'est vrai que les grands dessinateurs ont beaucoup plus de facilité à vendre leurs planches et à trouver des galeries surtout.
Si vous voulez, Hergé, il est rentré dans le monde de l'art tout simplement parce que Hergé, ça se vend des centaines de milliers d'euros. Donc les gens n'achètent pas Hergé parce que c'est beau, ils achètent Hergé parce qu'ils savent qu'ils sont en train de faire un placement et qu'ils vont revendre les planches et les couvertures beaucoup plus chères après.
Ça, c'est très européen. Il y a des ventes aux enchères régulières d'illustration. Et alors, il y en a beaucoup autour de la BD, des planches. Mais c'est vrai que, par exemple, je vois avec l'arrivée du numérique, il y a quand même de moins en moins d'originaux. Les galeries le sentent. Et par exemple, il y a la galerie Mangen à Paris.
Bah, eux, ils demandent carrément les planches.
Voilà, ouais. Qui provoque beaucoup d'expositions d'illustrateurs. Et d'ailleurs, c'est un système maintenant qui devient presque une rente, en fait, pour l'illustrateur. Parce que, par exemple, il y a Didier Graffé qui a fait une énorme exposition avec des tableaux originaux. Et en fait, la galerie lui a commandé les tableaux. L'a payé régulièrement pendant un an pour qu'il puisse travailler consacré à l'exposition, a prévendu tous les tableaux parce que tous les tableaux sont vendus avant le vernissage.
Le bouquin tiré. Catalogue.
Didier était ravi parce que c'était une énorme expo et qu'il a tout vendu. Et il a vendu ça. Il y avait des grands formats, hein, mais il a dû vendre 45 tableaux entre 15 000 et 25 000 euros. Quoi. Globalement, c'est une bonne opération.
Mais c'est rare. Je peux vous dire que c'est très rare.
Bah, à côté de ça,
il y a Manchu qui va en faire
une. C'est pas lui qui reçoit le truc non plus. Parce que ça passe par la galeriste.
Ah non, forcément. Là,
oui, non, mais c'est normal.
C'est à peu près 50%. Le galeriste prend à peu près 50%.
Après, voilà, c'est 50%.
Ils avaient déjà payé avant.
Mais c'est quand même une belle vente.
C'est comme ça. C'est deux mondes qui sont un peu cloisonnés.
C'est cloisonné, ouais.
Tout est cloisonné.
Bah, si vous voulez, vous regardez. Voilà, regardez un peu, vous prenez les coupures de presse au moment de la mort de Jean Giraud. C'est quand même un des plus grands dessinateurs du XXe siècle, on peut dire ce qu'on veut, penser ce qu'on veut, c'est quand même, c'est Jean Giraud quoi, Moebius. Mais c'est pas gigantesque. C'est pas gigantesque. Par rapport à l'artiste que c'était, la presse n'était pas quand même... On en a parlé, mais enfin, c'est tout. Même les émissions à la télé, enfin, c'était trois fois rien. Il y a eu un acteur qui est mort en conduisant très très vite sous un tunnel du pont de l'Alma, qui était mort, je ne sais plus comment il s'appelle, il avait 25 ou 30 ans, voilà, ils en ont parlé pendant 2 jours. Voilà, c'est tout. Donc, il n'y a pas ce rapport-là, quoi. Les gens ne connaissent pas. Et alors, je ne veux pas vous dire, en tant qu'auteur jeunesse, Mario Ramos est mort il y a quelques temps, ils en ont un peu parlé, mais parce qu'il était à l'école des loisirs. Donc l'école des loisirs, c'est un truc avec l'abonnement qui oblige à dire « Vous avez vu, celui-ci, il est bien ouais. !» Je le sais, j'ai été 6 ans à l'école des loisirs, donc je sais comment ça se passe. Mais vous avez des tas d'auteurs qui sont morts tous ces derniers temps. Là, Didier Comès est mort il y a deux jours.
Si, ils en ont
où
parlé.
Où ça? À la télé?
Figaro, Libé.
Ah, peut-être.
Sur Internet. Bon, bah,
alors, sur Internet.
Ah ouais, après, sur
voilà,
le journal,
sur Internet, sur le journal.
Sur Internet,
voilà.
Il
y a un autre illustrateur qui est mort.
Quand Frazetta est mort, on ne peut pas dire qu'il y a eu grand-chose. Et je vais vous dire pire, Ronald Searle, qui est quand même un des énormes dessinateurs caricaturistes, un illustrateur fabuleux, Ronald Searle, il a vécu pendant, je ne sais plus, 45 ou 48 ans en France. Il n'y a pas eu une ligne en France sur la mort de Ronald Searle. En Angleterre, c'était monstrueux hein, quand ils ont annoncé ça. Mais c'est les pays anglo-saxons. C'est très différent. Je sais pas. Peut-être en BD pour certains dessinateurs BD.
C'est pas officiel, mais oui, peut-être. Ouais.
Mais ils ont plus la culture de l'image.
Voilà. Mais aux États-Unis, quand on achète une peinture de Frazetta, quand les musées achetaient une peinture de Frazetta, ils achetaient aussi les reproductions des peintures dans les différents bouquins où il avait été reproduit. Parce qu'effectivement, l'original, ça n'est pas seulement la peinture de Frazetta, c'est aussi toutes les reproductions dans les pulp, dans les magazines pulp et tout ça, où les couleurs, des fois, sont psychédéliques par rapport à l'original. Mais tout ça fait partie intégrante du travail de Frazetta. Donc, mais c'est pas pareil, hein, c'est pas pareil.
Il y a une culture de l'image qui est complètement différente, qui peut être grâce à Warhol, grâce à Luxembourg, qui ont fait que la reproduction de l'image, etc., se vend autant, enfin, fait partie aussi de l'œuvre.
Ouais, mais regarde, il suffit d'écouter la télévision. Moi, je pars du principe que si il y avait quelqu'un d'un peu intelligent, si on reprenait l'émission de Jean Frappa Tac au Tac et qu'on la mette de 7h à 8h avant le journal de France 2, il y aurait une audience absolument incroyable. Parce que les gens, il suffit de voir quelqu'un qui dessine sur un trottoir et qui fait une dos pas possible, et vous avez des gens qui sont pourtant ultra pressés, ils s'arrêtent et ils regardent quelqu'un dessiner. Et je pars du principe que les aborigènes, maintenant, font des tableaux. Mais à l'époque, en fait, dessinaient avec du sable. Et ils effaçaient leur dessin. Parce qu'en fait, ce qui était important pour l'aborigène, c'était le mouvement, le fait de faire le dessin. Et ça l'amenait vers les dieux. Et je me demande si nous, on n'a pas encore ça. Il y a un côté, il suffit de voir n'importe qui, même moi, en tant que dessinateur, quand je regarde un autre dessinateur, je trouve ça fabuleux. T'as une conférence à 8h?
Non, c'est la salle. Ils sont dans le couloir, ils attendent tous.
Bon, à zut. Enfin, voilà.
Merci, monsieur.